Chers collègues, écoutez, un immense plaisir d'ouvrir ce nouveau séminaire de l'Association des directeurs généraux de services. Quelques mots d'accueil très rapides parce qu'on a une table ronde fournie, vous avez pu le remarquer. Tout d'abord, remercier évidemment notre hôte, le Collège de France et puis son DGS Arnaud Refignon qui malheureusement vous prie d'excuser son absence aujourd'hui, il est retenu par des obligations. Remercier évidemment l'ensemble des équipes techniques qui ont été en soutien de l'organisation de ce séminaire. Excusez aussi l'absence de notre consultante préférée, Cécile Chicoy, qui, vous le savez, a beaucoup œuvré, comme toujours, pour l'organisation aussi de cette journée. Jean-Michel, merci, comme d'habitude, pour la préparation et l'animation de ce séminaire. Et puis, je remercie chaleureusement l'ensemble des intervenants de ce matin et de cet après-midi pour leur contribution à un débat qui, je crois, va être riche. Merci aussi à la presse qui nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui. Alors, vous le savez, on organise ce type de séminaire environ deux fois par an. C'est pour nous l'occasion de faire un petit pas de côté réflexif pour nous sortir d'une actualité qui est souvent dense et quotidienne des DGS et de leurs adjoints. Mais ces séminaires, même ce petit pas de côté réflexif, c'est quand même toujours en lien avec les grands enjeux stratégiques du moment. Le 7 juin dernier, rappelez-vous, nous débattions de la problématique du financement par appel à projet dans l'enseignement supérieur, sujet ô combien sensible pour nos établissements. Aujourd'hui, on a choisi un thème qu'on n'aurait pas pensé voir abordé par les DGS, un thème d'une riche actualité tout au long de cette année 2023. Quelques chiffres, mais Jean-Michel posera le décor et puis surtout, M. Badge, que je remercie, vous fera une introduction circonstanciée sur ce sujet. Mais vous le savez, l'enseignement privé, supérieur privé, c'est 25% des effectifs étudiants, hein, environ 750 000 sur 3 millions. Ça a été en forte augmentation ces dernières années, notamment en raison du développement important de l'apprentissage. Et puis, quelque part, ça interroge sur quelles réponses on offre en termes de formation aux besoins de la société. Donc, vous le savez, le ministère a lancé un groupe de travail sur le sujet avec l'inspection générale. La commission culture et éducation du Sénat a procédé à des auditions. La CERS a fait des recommandations. Les conférences France Université, la CDFI également se sont exprimées. Et puis, tous les acteurs du moment, à un moment, ont produit des contributions, notamment des acteurs qui sont à cette tribune aujourd'hui. Donc, l'État souhaite réaffirmer un peu son rôle régulateur, mais d'un autre côté, il incite aussi nos établissements à nous ouvrir sur les enjeux de formation professionnelle, sur les enjeux de société de formation. Et donc, ce contexte-là, évidemment, nous interroge. Moi, je suis là pour représenter avec vous, avec le conseil d'administration, les DGS et les DGSA. On sait que vous êtes sollicités quand même sur ces sujets, notamment sur le pilotage de l'offre de formation, sur la définition des axes stratégiques, notamment, je vous rappelle, le COMP, hein, le contrat d'objectifs moyens de performance. Il porte beaucoup sur l'adaptation du volet de l'offre de formation. Donc, c'est un sujet que nous devons traiter, dont nous devons nous emparer. Et je pense qu'entendre les témoignages et les contributions aujourd'hui va permettre d'améliorer notre perception, la connaissance des enjeux et de nous préparer aussi à toujours œuvrer aussi pour nous ce pourquoi on agit, évidemment, la mission de service public, la formation de l'enseignement supérieur. Donc, on va avoir une première approche, mais je vais laisser Jean-Michel nous présenter les intervenants et le déroulé de cette journée. Merci beaucoup.
Merci Valérie. Laurent Badge va introduire cette journée. En la préparant, on s'est aperçu en fait que c'était, sauf erreur, hein, la première fois qu'il y avait un débat avec l'ensemble des acteurs. Il y a eu beaucoup d'interventions dans des tribunes, des interviews, etc. Mais un échange entre les acteurs, à notre connaissance, n'avait pas eu lieu. Il y a eu les auditions parlementaires, etc. Donc on a évidemment beaucoup d'intervenants, hein, à cette tribune. Ça sera un défi pour elles et eux de s'écouter. De réagir. L'idée, c'est surtout que ces intervenantes et ces intervenants échangent entre eux à partir, pas seulement, mais à partir de l'introduction que fera Laurent Batch. Donc, cet après-midi, Anne-Sophie Barthez, la directrice générale de l'enseignement supérieur, sera présente à 15h, nous rejoint avec plaisir. Elle vient de nous confirmer, parce qu'il y a toujours des doutes hein, avec la direction générale, c'est normal avec les emplois du temps, donc elle nous rejoindra à 15h. Donc j'ai demandé à Laurent de venir maintenant au pupitre, et pendant ce temps-là, je vais présenter quand même tous nos intervenants hein, dans un ordre qui va être plus simple. Donc Julien Jacquemin, chercheur, professeur associé à Neoma Business School, et qui a produit différentes tribunes et des études, puisqu'il est chercheur aussi, sur cette question de la régulation de l'enseignement supérieur privé. Martine Depas, qui est, et c'est atypique dans un séminaire de l'association des DGS, banquière. Alors, je reprends ma fiche. De Alma Partner.
Amala
Partner. Je suis désolé, hein. Je ne suis pas un spécialiste à part Société Générale, Banque Populaire, etc. Ce n'est pas une banque classique, mais qui a une approche de banquière, de marché, d'investissement sur ce sujet de l'enseignement supérieur privé. C'est un éclairage qui nous semble aussi important dans le cadre de la réflexion que notait Valérie Giverny. Stéphane Braconnier, le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, et que j'ai souhaité inviter parce qu'il a monté un établissement public expérimental avec une école d'ingénieurs qui est l'EFRAE et deux écoles autour des médias et du journalisme, W et le CFJ, donc un établissement public avec quelque part du privé et de l'associatif. Et donc ça, c'est aussi un modèle qui existe, et on y reviendra d'ailleurs cet après-midi avec Régis Brandinelli sur l'Université Côte d'Azur, le DGS de l'Université Côte d'Azur, qui elle aussi a ses approches. Lynne Frangier, je la présente pas comme la gardienne du temple, mais c'est quand même la directrice du département d'évaluation des formations du HCERS, et pour avoir eu l'occasion de pas mal travailler avec elle sur les synthèses formations, il y a plein d'éclairages intéressants, elle aura des choses à nous dire sur ces questions. José Milano, donc, qui est président exécutif du groupe Omnes Éducation, qui était plus connu à un moment donné, je dis pour nos interlocuteurs, par INSEC-U, dont une des écoles majeures, c'est l'INSEC. Gérard Pignot, qui est le directeur de CPE Lyon, l'école de chimie, qui est par ailleurs associé...
Et de numérique.
Chimie et du numérique, qui est par ailleurs associé avec l'université Claude Bernard et qui représente aussi la FESIC ici hein, et son président, on va dire les écoles indépendantes, les ESPIC. Et puis Martin Hirsch, qui a été très connu évidemment comme directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris et qui est aujourd'hui le président exécutif du groupe Galileo Éducation qui regroupe... Vice-président, excusez-moi, oh là là, vice-président exécutif du groupe Galileo et Éducation. Bon, Omnes Éducation, c'est environ 40 000 étudiants, hein, et Galileo, c'est 200 000 étudiants, mais c'est un groupe, c'est des chiffres au niveau monde. Donc voilà, vous avez un peu un panorama de nos intervenants. Nous avons du temps, mais nous avons beaucoup d'intervenants, donc on va... Ça va être mon rôle hein, d'être un peu le maître des horloges. Moi, je suis pas chargé de faire le débat à votre place, mais de le réguler, puisqu'on va beaucoup parler de régulation après l'intervention de Laurent Batch, à qui je donne la parole pour un temps qu'il sait limiter pour favoriser le débat, mais il participera aussi après au débat.
Merci. Merci Jean-Michel. Merci de votre invitation. Je suis très, très heureux de me trouver dans ce cadre pour échanger avec des professionnels des établissements publics. Parce qu'au fond, le sujet, c'est de savoir comment le développement d'enseignement privé percute nos établissements et quelles leçons, éventuellement, on peut en tirer. Alors, comme Jean-Michel m'a considérablement contraint, je suis obligé d'être très sélectif. Je n'avais pas peur le vieux prof qui lit son polycopier. Donc, si vous voulez lire ma contribution considérable, elle est téléchargeable sur le site de Fondapol, sur l'enseignement supérieur privé. Elle n'a que 3 mois, donc j'espère qu'elle n'est pas encore trop obsolète. Voilà. Je ne commenterai pas, je prendrai des angles d'attaque. Alors, évidemment, qui vont paraître peut-être un petit peu injustes sur le moment, mais vous verrez, on va s'entendre. 3 questions, donc. Première question, c'est qu'est-ce que c'est que ce marché d'enseignement supérieur privé? Vous êtes d'accord que c'est un marché, c'est pas, y a pas, c'est pas question de morale ou de déontologie, c'est, voilà, il existe. Il y a des offreurs, il y a des acheteurs, il y a des prix, il y a de la concurrence, donc il y a un marché. Qu'est-ce que c'est que ce marché ? Deuxièmement, lucratif versus non lucratif. Alors vous me direz, on s'en moque un peu de cette opposition, mais elle est intéressante parce que quand on la discute, on découvre qu'il peut y avoir des enjeux pour nous, du public. Et puis troisièmement, finalement, est-ce que l'enseignement privé a le monopole de la professionnalisation, comme il aurait un peu tendance à le dire ou à le donner à croire ? Alors premièrement, oui, c'est un drôle de marché. C'est un drôle de marché parce que le choix d'une école par un étudiant, ce n'est pas un acte d'achat qu'on renouvelle. Ce n'est pas non plus une option qu'on peut changer. C'est un engagement qui est difficilement révocable. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas exactement la même chose que lorsque vous allez ouvrir un compte en banque ou quand vous choisissez une assurance. Il n'y a pas le même degré de comparabilité ni le même degré de mobilité d'un offreur à un autre. Bon. Et donc, l'enjeu des offreurs, des entreprises qui sont sur ce marché, c'est évidemment de capter le client à l'entrée du marché, parce qu'une fois qu'il est capté, il a quand même tendance à s'incruster. Moi, j'ai fait beaucoup de process de documentation sur les sites des écoles. C'est absolument impossible de télécharger une documentation. Hein. Vous laissez vos coordonnées, et puis on vous rappelle. Ah, bah oui, mais on va vous faire une petite visio, parce que on va voir si vous êtes au niveau. Ah, on fait la visio. Ah, vous êtes au niveau, vous êtes vraiment très bon pour cette formation qui est très sélective, voilà. Mais justement, je tiens à vous dire, comme elle est très sélective et très bonne, il y a quand même beaucoup de candidats. Et comme il y a beaucoup de candidats, ben, il faudra quand même que vous décidiez dans les 3 jours. Et donc, cette logique-là, je l'ai éprouvée. Hein. Et puis bon, je veux dire, voilà, vous ne pouvez pas aller sur un site sans être obligé de laisser vos coordonnées pour avoir de la doc. Voilà. Donc ça, c'est l'information qu'on donne aux clients parce que, tout simplement, on a un vrai sujet de conquête, une vraie bagarre pour la conquête des clients. Je peux citer, puisque c'est public, le podcast de, il n'est pas lucratif, hein, du DG de Kedge, qui dit que son équipe marketing compte 70 personnes et que son budget marketing est de 14 millions sur 140 millions de chiffre d'affaires. Bon, ça donne un peu une idée des ordres de grandeur. Je pense que Martin ne me démentira pas si je dis que Galileo a à Soissons un véritable call center. Bon, je pourrais aussi citer ce dirigeant d'enseignement privé qui disait l'étudiant, c'est comme le béton, une fois qu'il est posé, il ne bouge plus. Voilà. Donc on a un marché, pardonnez d'aller un peu vite, mais on a un marché de clients et pas de consommateurs. Bon, avec une info réellement défaillante, pas de comparateur, pas de médiateur non plus, ça va sans dire. Et donc quand on me demande est-ce que c'est un bien de consommation comme un autre, ma réponse c'est de dire ce serait bien que ce soit un bien de consommation comme un autre. C'est même pas un bien de consommation comme un autre, parce que l'asymétrie du marché fait qu'il y a un vrai sujet de défaillance d'information. Et de notre point de vue, ben je vais vous dire, conclusion que je tire, c'est que Parcoursup, c'est quand même formidable. Le jour où le privé arrivera à la cheville de Parcoursup en termes de qualité d'information, on aura fait des progrès considérables. Et donc, il ne faut pas intérioriser la com-paillette, il ne faut pas intérioriser la pression, il faut assumer le fait que l'étudiant qui va sur Parcoursup, il a de l'information sur le contenu des formations, sur leurs débouchés, sur la nature de leur diplôme, et que cette information-là, c'est de l'or. Il y a d'ailleurs des écoles privées qui sont sur Parcoursup. Et c'est peut-être, plutôt que de faire un portail spécial, quelque chose qui serait important de développer comme un critère de choix, celles qui y sont et celles qui n'y sont pas. Deuxième question. Enfin, je vais vite, Jean-Michel. Deuxième question. Lucratif or not lucratif. Bon. En réalité, je ne pense pas que ce soit le bon critère. Je vais vous dire pourquoi. Et c'est le pourquoi qui est intéressant pour la suite. Il y a des entreprises et puis il y a les autres. D'ailleurs, l'association des entreprises éducatives pour l'emploi s'appelle bien Entreprise. Bon. Et les entreprises, il y a des actionnaires. Martine en parlera. Il y a des familles, ça peut être des fonds, ça peut être les deux. Ça peut être les dirigeants aussi, à qui on intéresse au développement du capital. Voilà. Mais c'est des entreprises. Donc les entreprises, ben, elles sont intéressées à valoriser leur patrimoine économique. Et donc la remontée des dividendes, ça s'inscrit dans ce cadre-là. Non pas forcément pour distribuer, mais pour développer la croissance, développer... Voilà. Bon, je laisse Martine. Il y a une différence, évidemment, avec les autres. C'est que pour valoriser, il faut savoir cost-killer, comme on dit chez nous, soigner les bidas, qui est devenu quand même... Le critère central, et puis éventuellement sacrifier à ce que j'appelle le biais du volume. Hein, c'est-à-dire, une fois qu'on a dépassé les coûts fixes, tout ce qu'on embauche en plus, tout ce qu'on recrute en plus, c'est de la recette nette. Bon, donc il y a un biais spécifique. peut aussi y avoir des avantages spécifiques, parce que quand on a des actionnaires, on a des financements, et le financement, ça peut aussi financer la croissance et le développement. Mais ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est plutôt de m'adresser aux écoles non lucratives, enfin, de traiter le cas des écoles non lucratives, c'est-à-dire celles qui n'ont pas d'actionnaires. Bon. Pour autant, ces écoles peuvent, et souvent, interviennent sur le marché. Et donc, mon point, c'est celui-ci, et il concerne le public, c'est qu'on peut être non lucratif en ayant des activités marchandes. Et il ne suffit pas de se draper dans le truc de dire « moi, je suis non lucratif, je n'enrichis pas l'actionnaire » pour considérer qu'on n'est pas pour autant un acteur du marché de l'enseignement supérieur privé. Les écoles de commerce se sont mises sur les bachelors, c'est bien parce qu'il y avait une demande solvable. Quand elles ont monté les prix de 8 000 à 12 000 euros par an le bachelor, c'est bien parce que ça suivait au niveau de la demande. Sur l'executive education, la bataille fait rage. Bon, Neoma vient de racheter une boîte de formation permanente. Bon, quand Schema rachète une école au Brésil ou une école à Los Angeles de stylisme, je ne dis pas que c'est à but lucratif, mais enfin, ce n'est pas de la philanthropie non plus. Bon. Et pour revenir au podcast de l'AEF et à l'interview de l'excellent Alexandre de Navaille, DG de Kedge, on lui posait la question. On lui dit « Mais est-ce que c'est possible de gagner de l'argent dans l'enseignement supérieur ?» Et Alexandre répond « C'est pas le problème de savoir si c'est possible. Le problème, c'est qu'on doit. » Donc, voilà une école consulaire, de la sphère consulaire, sans actionnaire, mais qui, en effet, intervient sur le marché avec un objectif très clair, c'est de gagner de l'argent pour sa cause, c'est-à-dire la cause d'une école. Parce que quand on lui demande qu'est-ce qui vous différencie du lucratif, il dit ben, « j'ai un corps d'enseignants permanent, je suis une école, j'ai une gouvernance particulière, etc. » Donc il y a bien une différence hein, qui tient au fait de ne pas avoir d'actionnaire. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'actionnaire qu'on ne peut pas aller sur le marché. Eh bien, vous me voyez venir, je ne vois pas pourquoi les établissements publics ne raisonnerait pas la même façon. J'écoute toujours ma ministre. J'ai vu que dans sa conférence de presse à la rentrée, elle a dit « prendre le taureau par les cornes et réfléchir au modèle économique des universités ». J'ai lu aussi la réponse à l'appel d'offres « accélérateur des stratégies de développement ADESR », etc. La formation continue y est très présente. Et parmi les libellés de cet appel d'offres, accompagner la mise en œuvre d'une politique de développement pérenne des ressources propres. Bon. Je lis hier que Centrale Supélec, établissement public, Centrale Supélec, composante de Paris-Saclay, chère au cœur du ministère, Centrale Supélec, la fondation, vient d'acheter un immeuble dans le 13e, près de 60 millions d'euros, ok, pour y développer des bachelors. Elle a pu le faire, parce que la fondation est de droit privé et personne ne vient l'embêter pour savoir si elle s'endette ou pas, etc. Deuxièmement, elle a pu le faire, parce qu'elle est une composante d'un établissement public dans lequel elle n'a pas eu besoin de passer devant le conseil d'administration pour justifier ses décisions. Elle les a fait parce que ça servait le développement de la politique propre de l'établissement et elle a eu mille fois raison de le faire. Bravo, Centrale Supélec, bravo, Romain Souverain. Et donc, mon point, c'est celui-là. Au-delà de l'opposition lucratif-non lucratif, on s'en moque un peu. Le sujet, c'est n'est pas parce qu'on n'a pas d'actionnaire qu'on ne peut pas gagner de l'argent en allant sur le marché. Et en particulier, l'executive education. Troisième point, et je m'achemine vers la fin. Il y a un truc qui m'agace un peu, je le dis à mes amis José et Martin, c'est, quand ils se présentent, je parle au style indirect, nous, on est l'enseignement supérieur professionnalisant. Bon. Et là, il me revient Giscard d'Estaing. Vous n'avez pas le monopole de la professionnalisation. Il ne l'a pas dit, mais il aurait pu le dire. Les études de médecine ne sont pas professionnalisantes, c'est bien connu. Le droit non plus, j'y reviendrai par rapport à la proposition justement de Galiléo. C'est pas professionnalisant. Physique, chimie, maths, tout ça, ça ne professionnalise pas. Même les études littéraires. Ça ne prépare pas aux métiers de la culture et de l'enseignement, mais ce n'est pas des métiers, c'est des sinécures. Les grandes écoles, les IUT, les IAE, le réseau Polytech, les INSA, tout ça, ce n'est pas professionnalisant. Les masters pro, avec un taux d'emploi qui est remarquable à la sortie, ce n'est pas professionnalisant. Donc je dis, il faut garder la mesure. Et puis du côté du public, un peu d'estime de soi et d'affirmation, et pas accepter ce narratif, et pas se laisser enfermer dans le corner de « nous, c'est la recherche ». Bon. Et donc, voilà ce que je dis. En revanche, c'est vrai qu'il y a des choses que le privé sait faire et que le public ne sait pas faire. Bon. Je vais prendre l'exemple, comme ça, ça évitera je vais couper l'herbe sous le pied de Martin, mais non. L'histoire du droit à Créteil. Bon, voilà, les étudiants s'inscrivent en droit en première année, on sait qu'il y a un taux d'échec élevé, ils ne savent pas forcément ce que c'est, ils ne savent pas s'adapter, bon, ben, c'est comme ça. Et donc, Galizoro arrive et dit nous, on va repêcher vos étudiants échoués et on va en faire des assistants juridiques à un niveau Bac plus 1, Bac plus 2, etc. Bon, c'est une vraie réponse entre nous. Parce que c'est quoi l'alternative pour ces étudiants? Bon, un certain nombre vont trouver une autre filière, une autre formation, ils vont se... Mais après tout, s'ils avaient ce choix-là, ce n'est pas inintéressant qu'ils aient ce choix-là. Bon, moi, la formule me plaît assez. Ben oui, mais le public ne sait pas trop faire ça. Voilà. Je regardais les statistiques des BTS. Le public a bien développé son activité. Mais quand vous regardez la répartition des BTS apprentissage ou en classe, c'est massivement en classe dans le public, massivement en apprentissage dans le privé. Voilà. Philippe Grasso disait de la réforme de l'apprentissage qu'elle avait permis, je vais vous retrouver la citation parce que j'aime pas trop dévier les choses, elle a profondément modifié la structure sociale de l'enseignement supérieur et par là a contribué à relancer l'espoir de milliers de jeunes qui n'avaient pour seul horizon que l'incertitude et le doute. Bon, la formule est peut-être un peu emphatique, mais il y a un vrai sujet dans le fait que, là je vais terminer sur une note favorable, hein, je ne sais pas que je sois favorable ou pas d'ailleurs, ce n'est pas mon sujet, mais sur une note, oui, tout à fait, sur une appréciation, il est vrai que, à travers cette réforme de 2018, qui a mis de la concurrence, comme dans les lignes d'autocar ou dans les professions réglementées, là où il n'y en avait pas, hein, suivez mon regard, 2018, c'était tout début, hein, on s'en souvient, que cette réforme-là, elle a boosté le développement de formation. Il y a eu des effets d'aubaine, il y a eu des excès, mais le développement de formations qui ont permis d'accueillir des jeunes qui ne trouvaient pas leur place dans le système d'enseignement supérieur. En ce sens-là, on peut parler de complémentarité, même si moi je ne me résigne pas au fait que le public ne tente pas d'offrir des solutions à ces jeunes-là et ne tente pas de développer davantage encore l'apprentissage. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Indéniablement, le privé a su participer de la diversification de l'enseignement, si ce n'est pas supérieur, c'est post-bac, et de ce point de vue-là, il remplit une fonction qui est une fonction tout à fait positive. Je n'en dirai pas plus.
Merci Laurent Batch. J'oserais dire qu'il nous a fait un peu du en même temps sur le public et sur le privé. Donc j'ai demandé tout simplement à nos intervenants une réaction à la présentation de Laurent Batch avec ses pics, ses points forts qu'il a pu souligner. Ouais, bah on va commencer Martin Hirsch et José Milano, hein, parce que vous avez été un peu désigné sur quelques aspects, mais pas seulement négatifs, hein, mais positifs. Un peu, quelle est votre réaction à la présentation de Laurent?
Moi, bonjour, merci de m'avoir invité. J'ai trouvé le rapport de Laurent très intéressant et je trouve ce que j'ai vu de plus complet sur le sujet, sur le paysage. Donc celles et ceux qui n'ont pas téléchargé, puisqu'on peut télécharger sans avoir besoin de laisser son numéro de téléphone à la Fondapol et sans s'inscrire à la Fondapol, peuvent le faire, et je recommande de le faire et de le lire. Deuxièmement, pour aller directement au fait, je suis le dernier à avoir dit ou prétendu que le secteur privé avait le monopole de la professionnalisation. Je suis capable de dire des bêtises, mais pas à ce point-là. Je ne l'ai jamais dit, je n'ai jamais pensé, et pour 36 raisons, je connais... Laurent a cité la médecine, a cité les IUT, a cité les BTS, on pourrait citer les écoles du travail social, on pourrait citer un milliard de trucs qui se font comme ça. Et moi, je dis exactement l'inverse. C'est-à-dire, je dis qu'il suffit de lire d'autres rapports, et notamment les rapports de l'OCDE année après année. Il y a un sujet en France qui est l'insuffisance de l'enseignement professionnalisant, quels que soient les secteurs. Et dans la part de ce qu'on propose après le bac ou après l'abitur en Allemagne ou après la diplomation du secondaire en Angleterre ou aux Pays-Bas ou etc., etc., sur lequel il y a un équilibre, il y a un gradient organisé entre des formations purement ou très essentiellement académiques ou d'autres qui sont soit purement, soit très essentiellement, professionnalisants, avec parfois des conditions de neutralité vis-à-vis des étudiants en termes de tarifs, en termes, etc., d'autres avec des différences, mais qu'en France, on a, quand le mouvement s'est fait vers 80% d'une classe d'âge au bac, avec un pluriel à bac, on a peu développé l'enseignement professionnalisant et il est relativement peu développé dans le secteur public. Quand on regarde la part des UT, des licences pro, etc., sur l'ensemble, ça représente quelques pourcents, contrairement aux Hochschule allemandes, suisses, néerlandaises, pour ne citer que ces pays-là, et que du coup, il s'est davantage développé dans le secteur privé. Et donc, si je reprends cela, et si je reviens sur les sujets de la régulation, et on en reviendra plus tard là-dessus...
On conclura sur la régulation, on va développer ça.
Mais moi, j'en déduis qu'il faut une régulation effectivement de l'enseignement professionnalisant qui couvre le public, l'associatif et le privé. Le sujet est effectivement la complémentarité. Juste un dernier mot. Ce que je trouve intéressant, et moi, mon point de vue de départ, c'est un sujet auquel je m'intéresse avant la dernière année où je travaille chez Galileo. C'est un sujet auquel je m'intéresse depuis des années, qui sont la trajectoire des jeunes, que j'ai en général pris depuis une douzaine d'années sur l'observation de ce que devenaient des jeunes qui faisaient leur service civique et quels étaient les potentiels qu'ils pouvaient avoir, etc., avec une conviction forte qui est que ce qu'on est capable de faire à 17 ans ne présume pas de ce qu'on est capable de faire à 21 ans, de ce qu'on est capable de faire à 23 ans, et que d'enfermer dans des choix étroits, restrictifs, et le pire service qu'on peut rendre à des jeunes. Et donc, je suis en faveur de la possibilité de pouvoir commencer par un truc académique et enchaîner sur un truc professionnalisant. Commencer par un truc professionnalisant avec peut-être beaucoup moins d'exigences intellectuelles ou académiques et de pouvoir faire en sorte que celles et ceux qui découvrent le plaisir ou leur potentiel ou leur capacité de faire des choses académiques, de pouvoir se diriger. Je pense qu'un technicien doit pouvoir devenir ingénieur. Je pense d'ailleurs qu'une infirmière doit pouvoir devenir médecin, etc., etc., et qu'une aide-soignante doit pouvoir devenir infirmière. Et on pourrait, et qu'un chef de rayon dans un grand magasin doit pouvoir devenir cadre supérieur, etc., etc., qu'un assistant juridique doit pouvoir devenir avocat. Et que par ailleurs, pour ça, il n'est pas obligé de commencer en premier cours, en sortant du bac, par la jurisprudence comparée sous la Troisième République et dans les différents pays européens. Que peut-être qu'il
Stéphane
découvrira
Braconnier va
avec
nous en
quelques
parler
plaisir.
Tout à l'heure.
Non, mais peut-être qu'il la découvrira avec quelques plaisirs plusieurs années. Je ne vais pas déflorer, mais juste, je reprends juste une minute. Moi, ce qui m'avait frappé, l'aventure qu'on essaye de construire avec Créteil, avec le doyen de Créteil, elle a démarré par une discussion intéressante où il me disait qu'il était emmerdé par ce taux d'échec de 83% de ses étudiants. Et il me disait, je pense qu'il ne m'en voudra pas de le dire, il disait, mais moi je commence par un cours sur Adolphe Thiers, jurisprudence sur la Troisième République, Adolphe Thiers. Et il me dit, je m'aperçois qu'il y a la moitié des étudiants qui... vu de haut, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous, qui entendent Adolf Hitler, et l'autre moitié qui se disent, merde, on me parle du tiers, j'ai dû me gourer sur Parcoursup, j'ai dû prendre science et non pas droit. Il le dit avec beaucoup d'humour, parce qu'il a énormément d'humour, mais en disant qu'il y a un problème derrière. Et ce qu'il dit derrière, c'est moi, j'ai une difficulté à pouvoir changer ce modèle, Et peut-être que j'ai effectivement des étudiants qui doivent faire un détour par autre chose et qui s'intéresseront peut-être à la jurisprudence sous la Troisième République un peu plus tard dans leur vie.
Merci Martin Hirsch. José Milano.
Beaucoup, j'essaie de angler un peu différemment, mais je suis évidemment d'accord avec ce que dit Martin, et j'étais d'accord avec ce que disait mon camarade Laurent, donc j'ai rien contre le monopole, je ne veux pas parler de monopole de la professionnalisation. Quelques remarques. La première, c'est qu'en fait, ce que tu dis, Laurent, c'est qu'il y a deux marchés. Alors bien sûr qu'on est des éducateurs les uns et les autres, mais il y a deux marchés. Il y a un marché qui est celui de l'étudiant, alors derrière il y a des influenceurs, la famille, les profs, etc. Et tout ça est très bien. Puis un deuxième marché qui est celui de l'entreprise, c'est-à-dire on prépare des jeunes pour l'insertion professionnelle. Et quand on voit, un, la détresse humaine, les catastrophes personnelles, des échecs dans le supérieur, ce que ça coûte collectivement, je ne rentre pas, après on pourra rentrer dans les détails, mais je crois qu'on est ici pour essayer de trouver des solutions un peu, ou en tout cas avoir un débat un peu global aussi. Les enjeux sont considérables. Ce pays ne peut pas, là où il est, se passer d'une montée en compétences généralisée de sa population. Et vite, j'insiste sur le « et vite ». Parce que les plans à 10 ans, on voit que le monde d'aujourd'hui, c'est la révolution technologique, elle induit un rapport au temps qui est complètement différent. Donc ça, c'est quand même important. Donc plutôt que de se chamailler, je ne vais pas aller directement à la conclusion, mais je pense que de toute façon, on ne sera pas suffisamment nombreux dans cette salle et suffisamment actifs pour répondre à un défi qui est à la fois un défi humain pour les individus, et notamment de mobilité sociale, Martin l'a dit, et en même temps un défi économique qui est de placer dans le marché du travail des gens compétents qui peuvent faire face aux défis qui sont les nôtres. Moi, je suis extrêmement frappé, et c'est pas une critique politique, que la plupart des plans d'investissement des publics, on parle de milliards à chaque fois, quand on cherche dans le détail qu'est-ce que ça signifie sur les filières de professionnalisation, on n'a pas d'informations. C'est-à-dire, on dit, il faut autant de milliards sur le nucléaire, tant de milliards sur, je sais pas quoi, le moteur électrique, etc. Et puis tu dis, OK, mais tout ça, c'est très bien, mais demain, qui est-ce qui se met à faire ça? Et en fait, il n'y a jamais de pensée ni systémique du sujet, ni spécialisée pour que rendre possible, au-delà de l'effet d'annonce, une opérationnalisation et une efficacité de cette dépense publique. Et c'est très préoccupant. Je prends un exemple, les écoles d'ingénieurs. Et je parle sous le contrôle de mon collègue. J'ai un contrôlable. On a 45 000 étudiants qui sortent de la CTI. On en a dans notre groupe. Moi, je suis dans un groupe où on a 4 écoles qui sont CGE, donc tout à fait l'univers proche de celui qui est le vôtre, la plupart d'entre vous dans cette salle, et en même temps un univers professionnalisant. Donc je vois bien les deux univers, et je vois bien qu'on a 45 000 ingénieurs. Bon, et les besoins sont considérables. Alors, est-ce que c'est 100 000 par an? Est-ce que c'est plus? Bon, on peut considérer que on va faire passer de 45 000 à 100 000 avec les mêmes étudiants, les mêmes systèmes de sélection, etc. On n'y arrivera pas. Moi, quand les collectivités territoriales me disent « Venez installer une école d'ingénieurs sur mon territoire », je leur dis « Vous ne l'aurez pas ». Parce que si vous l'avez, c'est dans 5 ans, c'est dans 6 ans, c'est dans 8 ans. Et vous n'avez pas, vous avez besoin, vous, sur le territoire, pour vos entreprises, d'une réaction rapide. Et c'est comme ça que ça, et vous ne l'aurez pas. En revanche, on peut vous fabriquer des bachelors qui, demain, peuvent rentrer, peuvent devenir des masters, faire des allers-retours avec le système public. C'est ça qu'on doit inventer pour répondre à ce besoin. Deuxième sujet rapidement. Je suis frappé par le fait que, quelque chose s'est passé avec le bac Blanquer. On peut en avoir des, il s'est passé quelque chose. C'est quand même l'idée selon laquelle, des gamins ont du talent, ils choisissent 3 majeurs en première, 2 en terminale. Qu'est-ce qu'on fait de ces talents-là? Alors après, on peut dire qu'ils n'ont pas le niveau, etc. Ils ont, pour moi, d'autres talents. Et la question, c'est est-ce que c'est à nous de nous adapter à cette réalité de ces jeunes qui arrivent par centaines de milliers avec le bac? Ils ont tous le bac, et on sait qu'ils ont des carences. Mais pour autant, ils sont ce qu'ils sont, et ils sont beaucoup plus diversifiés, et je ne parle même pas de l'usage des nouvelles technologies, que ce que nous étions, nous, dans un format extrêmement standard. Qu'avons-nous fait collectivement pour nous adapter à cette réalité de ce public complètement différent? Moi, je suis frappé par le fait que, et on est quand même dans nos modèles les uns et les autres, qui étaient plutôt nos modèles d'avant. Donc effectivement, comme dit Martin, c'est comment on prend un gamin qui a 18 ans, 19 ans, parce que quelques ans encore redoublés, et puis on construit un parcours professionnel, un rapport professionnel, une espérance professionnelle, progressivement, pour l'emmener le plus loin possible, ou en tout cas faire en sorte qu'il puisse arriver avec un passeport. Parce que ce que nous savons tous, c'est que même s'il y a une dévalorisation des diplômes, tous les travaux de sociologie d'éducation depuis 30 ans disent la même chose, c'est-à-dire les gamins veulent de plus en plus de diplômes, parce qu'on sait que c'est, en France, nous sommes dans un système qui est très hypocrite. C'est-à-dire que si tu passes pas la rampe de la formation initiale, c'est-à-dire du modèle qui n'a pas changé de valorisation des individus, tu n'as pas de deuxième chance. Et ça, c'est un problème sociétal. Et nous sommes tous, quelque part, acteurs de cette représentation qui fait que le gamin, s'il passe pas par les arcanes du monde d'avant qui a été le nôtre, que nous avons construit et qui nous a vu réussir collectivement, on n'accepte pas que cette nouvelle génération puisse faire autrement. Donc moi, je dis, pour simplifier, si on n'aura peut-être pas plus de 45 000 ingénieurs, mais si effectivement on n'est pas capable d'avoir des spécialistes de la data qui vont bosser avec ces ingénieurs, qu'ils soient de bachelor ou de master, aujourd'hui, quand on discute avec EDF, et je finirai là-dessus, quand on discute avec EDF, EDF sait qu'il n'aura pas plus d'ingénieurs. Mais EDF, au plus haut niveau de l'état-major d'EDF, ils disent, mais fabriquez-nous des spécialistes de la data, parce qu'on se débrouillera après, avec vous, avec d'autres, avec vous dans cette salle. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'on mette le pied à l'étrier de gamins qui rentrent par des sujets peut-être plus simples, la data, pas si simple que ça, la cyber. Ils vont développer de la compétence. Ils seront peut-être ingénieurs un jour, CTI, peut-être pas, mais c'est pas grave parce qu'on les aura emmenés à Bac plus 5. Ça correspond à un désir pour eux, ça correspond à une nécessité pour les entreprises. Évidemment, il va falloir qu'elles s'adaptent parce que les organisations du travail ne pourront plus être les mêmes. Mais pour autant, notre responsabilité, c'est d'amener ces gamins le plus loin possible dans ce projet et faire en sorte qu'ils aient un espoir. Parce qu'effectivement, on voit bien dans les statistiques que quand il n'y a pas de mobilité sociale, c'est toute la société qui se crispe. Donc c'est à la fois un intérêt pour la société, c'est un intérêt pour ces jeunes, et c'est évidemment un intérêt pour les entreprises.
Merci. Mais est-ce que ça veut dire, Stéphane Braconnier et Gérard Pignot, que les établissements, entre guillemets, historique, hein. CPE Lyon est aussi un établissement historique avec une longue tradition. Si j'écoute ce que dit José Milano, est-ce que ça veut dire que vous avez du mal à vous adapter et que c'est le privé? Je suis un peu, hein, volontairement un peu poil à gratter, hein, qui est capable de répondre à ces besoins nouveaux qui sont évoqués par José Milano. Stéphane Braconnier.
Bonjour à tous. Merci d'abord de m'avoir invité. Je serais un peu mal placé pour dire qu'on a du mal à s'adapter, puisque l'université que je préside, justement, a mis en œuvre un modèle d'établissement public expérimental dans lequel nous avons accueilli exclusivement 3 écoles privées, 4 même, hein, si on ajoute l'ISIT. Donc moi, je suis particulièrement convaincu et parfaitement convaincu par la complémentarité. Et l'idée même de concurrence, d'ailleurs, est plutôt derrière nous, parce que, on le voit bien, le public n'est pas en mesure, pour différentes raisons, on pourrait en parler pendant des heures, d'absorber l'augmentation des effectifs considérables qui est apparue ces dernières années. C'est une augmentation en 20 ans de 30% des effectifs dans l'enseignement public, et c'est une multiplication par 3 des effectifs dans l'enseignement supérieur privé. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc cette idée même de concurrence macro, je dirais, si on prend de la distance par rapport à tout ça, je pense qu'elle est derrière nous et qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une logique de complémentarité. Alors une logique de complémentarité qui peut s'exprimer de façon très différente selon les cas, mais en tout cas une logique de complémentarité qui répond aussi à des besoins qui sont des besoins des secteurs professionnels et qui sont les besoins aussi du marché étudiant auquel il était fait référence à l'instant. Sur la professionnalisation, je crois que les universités, très honnêtement, en particulier, les universités n'ont rien à envier au secteur privé sur leur capacité à s'adapter aux exigences de la professionnalisation. Au-delà même, d'ailleurs, des BTS, au-delà de toute une série d'autres dispositifs, mais les universités se sont adaptées, se sont déjà adaptées. On a parlé des masters professionnels, évidemment, qui sont aujourd'hui tout très ouvert à l'apprentissage, même dans le domaine des licences professionnelles, dans les liens avec le secteur privé. Enfin, alors je sais bien que je préside une université qui est particulièrement friendly avec le secteur privé hein, depuis très longtemps, et avec les secteurs professionnels en particulier, parce que nous avons un point d'accroche. Moi, je rappelle que Paris Panthéon Assas, 75% des étudiants, c'est des juristes. Donc, évidemment, on a une longue histoire de rapports étroits avec les avocats, avec les notaires, avec les commissaires de justice, les magistrature, etc., etc. Donc, on a des liens très forts avec les secteurs professionnels. Mais aujourd'hui, l'enjeu, évidemment, c'est de répondre aux besoins nouveaux de ces professionnels-là, qui nous disent, nous, vous formez grosso modo suffisamment d'avocats, suffisamment de notaires. En revanche, ce dont on a besoin, c'est des assistants juridiques, c'est des salariés, en quelque sorte, qui, dans les études, dans les cabinets d'avocats, vont venir renforcer nos équipes. Et ceux-là, effectivement, n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un master en propriété intellectuelle. Et ils sont plutôt à Bac plus 3. Donc ça, c'est un point qui est tout à fait important. Après, il y a la réponse aux professionnels, ça, les universités sont capables de l'apporter, dès lors, naturellement, que l'on se donne les moyens d'y répondre dans des délais qui sont raisonnables. Et l'un des motifs qui a justifié la création de notre établissement public expérimental et le fait qu'on fasse appel à ces écoles et aux écoles auxquelles on a fait appel, c'est qu'il y avait une nécessité d'aller vite. Je vous donnais un exemple qui est assez parlant, c'est la Legal Tech, par exemple. La Legal Tech, c'est-à-dire l'application de toutes les nouvelles technologies dans le domaine du droit, et en particulier de l'intelligence artificielle générative. Justice prédictive, on n'a plus besoin de magistrats pour rendre la justice, c'est l'intelligence artificielle qui va le rendre. On n'a plus besoin d'avocats pour rédiger des contrats, on n'a plus besoin de notaires pour rédiger un acte de vente. Ça, tout ça, ChatGPT va le faire, parce que ChatGPT est très très intelligent. Je caricature, je dirais pas ça devant tout le monde, hein, mais on est entre nous. Mais en tout cas, ça, c'est un enjeu qui est très fort. Et on sait très bien que cet enjeu-là, vous le disiez à l'instant, et là, je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est pas dans 10 ans qu'il faudra y répondre. Enfin, ChatGPT, qui avait entendu parler de ChatGPT il y a 18 mois ou il y a un an? Enfin, ChatGPT, c'est apparu dans le paysage en quelques semaines. Et c'est devenu un sujet de discussion centrale. Donc c'est pas dans 10 ans. Donc notre analyse, l'analyse que nous avons faite il y a 2 ans, lorsqu'on a créé l'établissement public expérimental, c'est qu'il faudrait aller très vite sur ce rapprochement entre les nouvelles technologies et le secteur juridique. Et que si on ne faisait pas rentrer ces nouvelles technologies dans une faculté de droit comme la nôtre, on aurait du mal à répondre à ce défi. Donc c'est ce qu'on a fait en faisant entrer les frais dans notre établissement public expérimental. Le deuxième exemple, c'est, et toujours en lien d'ailleurs avec les nouvelles technologies, c'est l'information, la communication. On avait un pôle, et on a toujours évidemment à Assas, un pôle très fort en information et communication, lié à l'Institut français de presse qui existe dans l'Université de Paris depuis des décennies et des décennies. Là encore, on s'est dit, si on veut répondre aux enjeux sur l'information, médias, communication, on n'a pas le choix. Il va falloir aller vite, accélérer, passer à la vitesse supérieure. Et ça, on pourra le faire uniquement si on a des partenaires, mais des partenaires qui ne sont pas simplement des partenaires conventionnels. Passer une convention sur un master, passer une convention sur une formation, ça suffira pas. Il faut renforcer considérablement notre pôle média. C'est la raison pour laquelle on a fait rentrer le CFJ et l'école W dans l'université. Donc on a cette réponse à apporter au secteur professionnel. Et juste pour terminer sur le marché étudiant, qui est le deuxième sujet qui est important sur la question de la complémentarité entre le public et le privé, sur le marché étudiant, là encore, on a des réflexes aujourd'hui des étudiants qui sont plus du tout les mêmes que ceux d'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Vous disiez que le modèle n'avait pas changé. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Le modèle a quand même beaucoup changé. On a beaucoup évolué. On a beaucoup évolué parce qu'on s'est adapté d'abord à une mobilité beaucoup plus forte des étudiants. Il y a 15 ans ou 20 ans, un étudiant de Montpellier, ça lui venait pas à l'idée d'aller étudier à Paris. Aujourd'hui, ça fait partie du spectre des possibilités qu'il a, parce qu'il y a Parcoursup, justement, on parlait de Parcoursup, qui a été un accélérateur de mobilité. Ensuite, les étudiants, ils sont en recherche beaucoup plus forte de transversalité, d'interdisciplinarité. Donc évidemment, c'est une prime à tous les doubles diplômes ou aux bilicences, etc., etc. Puis, troisièmement, les lycéens, les nouveaux bacheliers, ou plus également leurs parents, très souvent, sont très demandeurs de filières sélectives. Donc ça a aussi interrogé les universités sur notre capacité à mettre en place des filières sélectives. Donc on s'est adapté aussi à tout ça, double diplôme. Des filières sélectives, ça a été la création de filières sélectives au sein des universités, notamment les filières
renforcé. Vous savez qu'Assas a été quand même la première université, il y a une douzaine d'années, à mettre en place ce qu'on appelait les collèges de droit. Les collèges de droit, c'est une filière de licence, mais plus sélective, sélective même, qui offre un enseignement renforcé à ses étudiants. Donc on a cette interrogation à avoir permanente, à adapter notre modèle si on veut être en mesure de répondre aux demandes des étudiants. Ce qui, évidemment, dire ça, c'est un peu dire que si nous, on n'y répond pas, d'autres y répondront. Et donc on est dans une logique de concurrence, mais une logique de concurrence, je crois, qui est très dictée aussi par un certain nombre d'impératifs académiques.
Alors, rapidement, parce que je veux...
Très rapidement, je vais savoir.
Non, ce que je veux dire, c'est que... La question du talent, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on a, on savait que la sélection se faisait sur maths physique, maths éco, sur certaines filières il y a quelques années. A-t-on aujourd'hui, on se rejoint là-dessus, l'idée d'excellence avec des agencements d'options en terminale qui sont différents sur les 8, est-ce qu'un gamin qui est fort en numérique et histoire géo, est-ce qu'il a la même place d'excellence dans le système du supérieur que son collègue, son camarade qui était maths physique? Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire, pardon.
Gérard Pignot.
Bonjour.
Bonjour. On a évoqué les ingénieurs.
Ouais, super, je connais bien. bonjour à tous et bonjour à toutes. D'abord, merci de nous avoir invités. Je suis très impressionné par l'Assemblée. D'abord, avant de mentionner un certain nombre de points, je voulais dire d'où je parle. Je suis directeur d'une école d'ingénieurs qui s'appelle CPE Lyon, qui est à Lyon, qui est une école d'ingénieurs en chimie et en sciences du numérique au sens large, c'est-à-dire électronique, informatique, télécommunication et toutes les applications, intelligence artificielle, cybersécurité, robotique. Et CPE Lyon, il faut savoir que c'est la plus grosse école de chimie en France et que dans le domaine du numérique, nous sommes la deuxième plus grosse école de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes ce qu'on appelle une start-up centenaire, c'est-à-dire que nous sommes le résultat de la fusion de deux écoles qui ont fusionné il y a un peu moins de 30 ans. Donc pour une école, c'est quand même assez récent. Mais les écoles qui ont fusionné avaient l'une plus de 100 ans et l'autre n'en était pas loin. Et pour la petite histoire, c'était une école laïque et une école catholique. Et à Lyon, on arrive à faire ce genre de truc.
Un établissement public expérimental avant l'heure.
Ouais, exactement. On a essayé tout, on a tout expérimenté, nous. Tout nous est arrivé, donc on a tout essayé. Alors, autre spécificité, nous sommes associés par décret à l'université Claude Bernard Lyon 1, qui est une des grandes universités scientifiques et de santé de France. Associés par décret, c'est pas simplement qu'on a fait une convention pour se dire qu'on va faire les trucs ensemble, hein. C'est un décret d'État. Et ça, depuis la création de l'école en 1994. Et nous partageons avec l'université Claude Bernard Lyon 1 beaucoup de choses, des locaux, de la recherche, des formations, dans les deux sens. On a des élèves de Lyon 1 qui viennent chez nous, on a des élèves de chez nous qui vont dans les masters de Lyon 1 et dans les doctorats. Et c'est plutôt quelque chose qui marche bien. Voilà. Alors je dis pas que ça demande pas parfois un peu de diplomatie de la part du directeur, mais finalement, globalement, ça marche plutôt bien parce qu'on sent qu'on a des intérêts communs. Voilà. Je voudrais aussi dire que l'école est membre de la FESIC, qui est la Fédération des écoles supérieures d'intérêt collectif, qui est une fédération qui compte aujourd'hui une trentaine d'écoles, à peu près 80 000 étudiants, qui sont toutes des écoles ESPIG, c'est-à-dire établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, non lucrative, donc avec des statuts habituellement associatifs, fondations, des choses comme ça. Je crois qu'il y a 17 écoles d'ingénieurs, 7 écoles de business et 4 autres écoles dans des domaines plutôt art et psychologie. Que dire alors je vois aussi une dernière chose et après je parlerai pas que de mon école. L'école a eu 3 fois le prix Nobel dans son histoire et le dernier président de l'Académie des sciences était également un ancien de l'école. Et puis également le créateur de Plastic Omnium, de LDLC, qui doit être un des plus gros distributeurs informatiques européens, et puis de SNF Water Science, qui est aujourd'hui la deuxième plus grosse entreprise de chimie française. Et puis avec les enjeux du traitement de l'eau que vous imaginez. Donc, si vous voulez, pour nous, ce débat science, professionnalisation, enfin, académique, professionnalisation, science, application de la science, est surréaliste. Il est surréaliste et il est surtout très passéiste. C'est comme le débat recherche fondamentale, recherche appliquée. Hein, si vous voulez, je discutais récemment avec des chimistes de l'école, qui sont des gens extrêmement bons au plan fondamental, extrêmement bien formés. Les entreprises font la queue devant leur bureau pour avoir des contrats avec eux. Donc ça fait quand même assez longtemps que ce débat-là est enterré. D'autant plus que Nous sommes... alors, on n'utilise plus beaucoup le mot économie de la connaissance, qui était très à la mode il y a une petite dizaine d'années. Alors, j'ai aussi un avantage, c'est que j'ai travaillé 20 ans dans l'industrie. Enfin, je ne sais pas si c'est un avantage, disons une caractéristique. J'ai travaillé 20 ans dans l'industrie, mais ça fait 20 ans aussi que je dirige CPE. Donc, je connais un peu bien les deux systèmes. Donc, nous sommes dans une économie de la connaissance et dans une économie de la compétence. Et donc, dire, il y a ceux qui font, les professionnels, et ceux qui savent, les académiques, franchement, ça ne peut plus se dire dans le monde moderne. Ça n'existe plus. Voilà. Je suis content qu'un chirurgien qui m'opère, bon, il ait un certain savoir-faire manuel, parce que quand même, il va aller tripatouiller à l'intérieur, et j'aimerais bien qu'il ait des bons outils, qu'il soit habile, que ça se passe bien, qu'il ne tremble pas. Je suis aussi très content de savoir qu'il a par ailleurs de très bonnes compétences sur l'anatomie, sur les maladies, qu'il sait pourquoi il fait les choses, et ça, c'est important. Donc voilà, pour moi, c'est un débat qui est très ancien, enfin, qui est très ancien, qui n'a plus lieu d'être. Après, il y a des dosages, hein, suivant les domaines, y compris à l'intérieur de mon école, entre des chimistes et des informaticiens, ce n'est pas tout à fait la même quantité de savoir académique et de savoir-faire. C'est-à-dire qu'en informatique, il y a beaucoup d'auto-formation, de moins en moins parce que ça devient plus compliqué, mais il y a encore pas mal d'auto-formation. Il n'y a pas d'auto-formation en chimie, ça n'existe pas. Voilà. Alors, la question de la vitesse, c'était une des questions que vous avez posées. C'est un vrai problème en France, général. C'est-à-dire qu'en France... on a plutôt des bonnes idées, plutôt. En tout cas, pas plus mauvaises que les autres. On les a à peu près en même temps que les autres. Alors, de toute façon, maintenant, comme tout circule, tout le monde a à peu près les mêmes idées en même temps. On est clairement beaucoup plus lent sur l'exécution. Ça, c'est un vrai problème. Et on est plus lent sur l'exécution à cause, d'abord, peut-être d'une certaine... Je dirais d'un élément culturel. Alors moi, quand j'ai quitté l'entreprise dans laquelle j'étais, mon entreprise était rachetée par un Canadien. Canadiens, anglo-saxons, etc. Et on nous a formés à parler avec les Canadiens parce qu'il fallait qu'on puisse trouver une place dans la future entité canadienne. Et on nous a dit quelque chose qui m'a toujours frappé. Il nous a dit, vous savez, en France, l'idée prime l'action. Et donc tout ce qui est académique, savoir, etc. est considéré comme supérieur à ceux qui font. Et donc, quand vous allez discuter avec les RH canadiens, ne dites pas seulement tout ce que vous savez, mais dites ce que vous avez fait. Voilà. Et donc, cette vision que l'idée prime l'action fait que l'action est souvent lente. Hein, je rappelle, je crois que c'est le général de Gaulle qui disait « l'intendance suivra ». Or, tout le monde sait qu'en fait, une guerre, aujourd'hui, elle se gagne essentiellement sur l'intendance. Et donc, l'intendance suivra, c'est une vision un peu méprisante de l'intendance qui est totalement obsolète. Aujourd'hui, c'est pas l'intendance qui suit, c'est l'armée qui suit l'intendance. Parce que si vous... regardez tous les conflits actuels. Alors... pour la question que vous parliez de rapidité, si je reviens maintenant au sujet, entre public et privé, là, beaucoup de DGS d'une université devant nous et d'établissements publics, je pense que c'est pas faux que l'université française et les établissements publics français ont eu des problèmes de lenteur parce qu'ils étaient blindés de réglementations et de pratiques imposées par, on va dire, la bureaucratie française. Et qu'ils en ont souffert, ils en souffrent toujours. Alors, ils ont fait beaucoup de progrès. Enfin, moi, ça fait donc 20 ans que je travaille avec Lyon 1. Ils ont fait beaucoup de progrès, mais ils venaient de loin, quand même. Ils venaient quand même de loin, mais c'était un problème pour eux. Et c'est pas complètement encore résolu. Et régulièrement, je travaille avec mes collègues universitaires qui sont excellents, et ils en souffrent. Et ils en souffrent. Et ils me disent, ah, CPE, l'avantage que tu as, c'est que toi, tu décides et tout de suite, tu fais. Je lui dis, ouais, mais enfin, d'abord, ok, mais il faut faire, il faut avoir les moyens, vous avez beaucoup de moyens, contrairement à ce que parfois ils disent, mais voilà. Mais c'est vrai qu'ils en souffrent. Ils en souffrent. Alors, ça s'est beaucoup amélioré. Hein, je veux témoigner le fait que les universités françaises ont beaucoup évolué, mais il y a des scories. Il en reste encore. J'ai donné un exemple très concret, pas avec une université. Il y a 7 ou 8 ans, je ne sais pas si vous savez, mais Bruno Bonnel, le patron du SGPI, est un ancien de CPE. Et un jour, nous vient l'idée, alors à une époque, on parlait beaucoup de robotique. Alors on va voir Bonnel, il dit, ouais, il faut faire de la robotique, super, bon. Alors on réfléchit, on s'est dit, bah ouais, on va faire de la robotique, c'est une bonne idée. Donc on a réfléchi quelques mois, pas longtemps. Et puis, en moins de 6 mois, on a monté une majeure, une équipe de recherche, et on est parti à fond la caisse. À côté de nous, on a un excellent collègue, remarquable, qui s'appelle l'INSA de Lyon, qui est une très belle école d'ingénieurs, qui avait les mêmes... informations que nous. Et en plus, Bonnel, il a deux mamans, c'est TPE Lyon et l'INSA de Lyon. Puisqu'en fait, ses parents, quand il est revenu d'Algérie, ses parents travaillaient à l'INSA de Lyon. Donc il adore l'INSA de Lyon. Donc il leur dit la même chose, heureusement. Et puis, c'est son honnêteté de base. Ils ont mis deux ans. Alors, pourquoi ? Parce que, d'abord, il a fallu qu'ils passent par pas mal de comités, etc. Bon. Deuxièmement, il a fallu qu'ils embauchent des gens. Pour embaucher des gens, il fallait qu'il y ait des postes qui se libèrent. Il fallait qu'il y ait des votes pour décider que les postes qui se libéraient sur je ne sais pas quoi allaient en robotique. C'était beaucoup plus long. Après, ils ont embauché des gens remarquables, des gens de très bonne qualité, et d'ailleurs avec lesquels on travaille. Mais il y avait quand même un petit problème de rapidité, et ça, je pense que c'est vraiment une difficulté. Vous savez, en France, moi, je dis toujours qu'on rattrape tous nos retards à la fin, parce qu'on a toujours été à peu près en retard sur tout, et que donc on est les champions du rattrapage de retard. Voilà. Donc je pense que le jour où le rattrapage de retard, de même que le tirage dans le pied, dans les genoux, deviendra discipline académique, le nombre de médailles d'or qu'aura la France sera absolument merveilleux. Voilà. Concurrence, complémentarité. On est concurrent et complémentaire. Moi, je suis comme disaient parfois mes collègues américains, moi, je suis un cochon de capitaliste. I'm a capitalist pig. Les Américains aiment beaucoup dire ça. Je pense que des marchés qui sont des marchés libres, voilà, il y a une liberté d'enseignement en France, qui sont des marchés avec compétition, avec concurrence, nous stimulent. Alors, moi, je me souviens qu'il y a un certain nombre d'années, la commune de Lyon, pour ceux qui connaissent, a connu un certain nombre de vicissitudes sur lesquelles je ne reviendrai pas.
Ah oui, mais on va faire un séminaire spécial. Mais,
à moins d'avoir un doctorat. Voilà. Mais on est encore en train de travailler sur un établissement public expérimental. D'ailleurs, nous allons rentrer, nous, établissements privés, dans un établissement public expérimental avec des établissements publics, j'espère. Et on en est très contents. Et un jour, je dis à mes collègues, alors dans la commune de Lyon, il y a majoritairement des établissements publics, ils disaient, oui, mais il faut faire un truc. Je leur dis, écoutez, la première chose qu'on doit se faire, c'est entre nous, entre Lyonnais et Stéphanois, il faut faire un accord de non-concurrence. Parce que quand vous demandez à Montréal, c'est quoi l'Université de Montréal, qui est composée de l'Université de Montréal et de Polytechnique Montréal, c'est d'abord un accord de non-concurrence entre eux. Après, ils sont concurrents avec la planète entière. Mais entre eux, ils ne se tirent pas dans les pattes. Et quand même, à l'époque où les gens me disaient ça, on se tirait pas mal dans les pattes entre Lyonnais. Même assez fréquemment. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais moi, je n'ai pas peur de la concurrence. » C'est un directeur d'établissement public que je tairais. Et à ce moment-là, je dis « Écoute, j'ai passé 20 ans dans l'industrie de l'aluminium, qui est une des industries les plus compétitives au monde. Je dirige aujourd'hui un établissement privé dans des domaines extraordinairement compétitifs. Ne me fais pas de leçons sur la compétition. Mais simplement, il faut choisir qui sont ses compétiteurs. On peut pas être, enfin, c'est pas à l'intérieur d'une structure que vous allez vous tirer dans les pieds pour, sinon c'est aussi une cause de lenteur. Voilà.
On va revenir après sur tous ces sujets, Gérard Pignot.
Voilà. J'ai encore plein de trucs à dire, mais.
Oui, mais vous allez pouvoir les dire.
Mais il faut que je passe sous le contrôle de mon voisin, de mes voisins, peut-être.
Non, mais vous allez pouvoir les dire après, mais il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Et donc, avant d'aborder les conditions de la concurrence avec Julien Jacquemin, mais aussi le marché avec Martine Depin, une question à Aline Frangier sur cette évolution des formations, le regard que vous avez, parce que vous avez un regard panoramique sur la rapidité du changement, la nature du changement de l'offre de formation dans les établissements que le HCERS évalue.
Alors oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je rejoins ce qui a été dit sur la question des frontières qui sont en train de bouger énormément. C'est aujourd'hui peu pertinent de parler de manière systématique d'une différence entre privé et public, et encore moins peut-être entre formation à la recherche et formation professionnalisante. Cela est dû en partie au fait que l'opposition recherche et professionnalisation aujourd'hui, l'ensemble des formations dans le public sont professionnalisantes à des niveaux différents selon qu'elles visent une insertion à Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5 ou Bac plus 8 selon leur finalité. Mais un aspect qui passe aussi souvent à la trappe aujourd'hui, plus de la moitié des formations d'un établissement sont des licences professionnelles. Quand on regarde l'offre de formation dans un établissement pluridisciplinaire, la moitié des nombres de mentions sont des licences professionnelles. Et si on prend les masters et les licences professionnelles, près de 80% de l'offre de formation d'un établissement aujourd'hui est professionnalisante visant une insertion professionnelle immédiate. C'est vraiment un point important à signaler. Par ailleurs, mais en revanche, ce qui va distinguer ces formations, c'est qu'elles ont toutes une imprégnation dans la recherche à des degrés aussi différents, ne serait-ce qu'en ayant des enseignants-chercheurs pour les DUST et les LP, jusqu'à aller au doctorat. À l'opposé, on voit aujourd'hui qu'il y a un enseignement privé qui est d'ailleurs n'est pas une catégorie uniforme, je voudrais revenir aussi sur la question tout à l'heure, mais avec aussi un intérêt grandissant pour la question de l'adossement à la recherche avec des degrés différents. Mais par exemple, dans cet enseignement privé, il faut distinguer entre reconnu et le non reconnu. Parce que l'enjeu, il est davantage plutôt là-dessus. Quand je dis reconnu par l'État. Donc il y a les formations visées, les diplômes visés et les diplômes valant grade, licence et master. Et il y a aussi le reconnu par l'État, donc les titres RNCP, je pourrais revenir sur cette distinction entre les deux, et puis le non reconnu qui aujourd'hui n'est pas évalué, ni par le HCRS, ni par la CTI ou ni par la CEFDG. Mais dans cet enseignement supérieur aujourd'hui privé reconnu, il y a une demande croissante de reconnaissance par l'État, et notamment de demande de grade, de licence et de master. Il y a des constructions de bachelor. Alors, bon, c'est ma déformation professionnelle, je suis lexicologue, et les mots ont un sens. Le mot bachelor est devenu aujourd'hui, parce qu'il est un anglicisme, c'est un emprunt, et ça donne une impression d'international, mais c'est devenu aussi un fourre-tout, un mot d'usage pour toute une série de diplômes. Mais en tout cas, dans cette création de bachelor, il y a une grande partie qui aujourd'hui demande le grade de licence et de master. Pour vous donner un indice, en 2 ans, depuis l'apparition de l'arrêté qui cadre le cahier des charges des grades, licence et master, le nombre de demandes de reconnaissance de grade et donc d'évaluation par le HCRS, la CTI et la CEFDG a été multiplié selon les cas, par 30, 40, 50, parfois 100, 200%, hein, selon les agences. Donc, je suis arrivée au HCRS il y a 2 ans, on évaluait 1 à 2 diplômes visés ou valant grade par an. Là, j'en suis à 10, une dizaine, une quinzaine par an. Et ça, c'est que le HCRS qui évalue la troisième voie, donc en dehors des diplômes d'ingénieur et la CEFDG. Mais on voit que cette appétence, elle est liée à la question de la poursuite d'études, donc la notion de trajectoire dont a parlé Martin Hirsch tout à l'heure. Il y a un besoin de poursuivre des études et après des diplômes professionnalisants courts avec insertion immédiate, mais pouvoir aller plus loin. Et il y a aussi l'enjeu de la pluridisciplinarité. Et on voit aussi qu'aujourd'hui, les thématiques autour du design, de la mode, du numérique et donc de la science des données et en lien avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, amène à la fois des collaborations croissantes entre le privé et le public. Il y en a toujours eu, mais là, il y en a jusqu'au niveau de la diplomation, mais aussi, pour ces diplômes-là, une demande de reconnaissance, pas simplement de diplôme visé, mais aussi de grade LM. Tout ça pour dire que les frontières université, école, public, privé, recherche, pro, deviennent de plus en plus flous. Et l'enjeu réellement, il est celui de, je dirais, réguler, non réguler, voilà, réguler, hors note. Donc, bon, mais je pourrais peut-être le détailler.
On va revenir
tout à l'heure.
La fin de ce débat, ça sera sur la régulation, évidemment, qui est un problème clé. Alors, on va terminer ce premier tour de table avec Martine Depas et Julien Jacquemin. Bon, Martine Depas, les universités, on l'entend, ont beaucoup évolué. Ceci étant dit, le privé aujourd'hui gagne entre guillemets des parts de marché. Vous êtes banquière, vous raisonnez, j'imagine, avec ces points de vue sur la pérennité d'une croissance du secteur privé. Qu'est-ce qui l'explique selon vous, du point de vue de votre banquière? Parce que je suppose que vous regardez ça quand même sur les raisons profondes qui expliquent ça.
Oui, alors en fait d'abord, merci de m'avoir invité et je recommande vraiment le rapport de Laurent. Ouais. Je l'ai mis sur mon LinkedIn, il y a des milliers de personnes qui l'ont vu et vraiment, ça fait vraiment un point. Moi, je n'ai pas vu quelque chose d'aussi complet depuis longtemps. Alors, en fait, moi, en un mot, je ne suis pas vraiment banquière, en fait, c'est un terme générique. Moi, je fais ce qu'on appelle des fusions-acquisitions et je suis spécialisée dans le monde de l'éducation avec deux de mes clients favoris qui sont sur l'estrade, d'ailleurs. Donc, je vais faire attention à ce que je dis. Et donc, en fait, moi, j'ai commencé il y a 15 ans, en fait. C'est pour vous donner quand même une idée sur le marché. Il n'y avait pas de marché, en fait, à l'époque. Il y avait quelques entreprises privées qui existait. Il y avait deux groupes américains qui s'étaient installés en France au début des années 2000. Un groupe qui a un peu éclaté, enfin qui n'est plus présent du tout en Europe, qui s'appelle Orate. Et il y avait un groupe qui s'appelait Career Education, qui possédait ce qui est devenu Omnes. En fait. Personne n'avait vu qu'il y avait un marché. Et est arrivé, en fait, ce qu'on appelle un family office, c'est-à-dire c'est en fait une sorte de fonds d'investissement, mais qui appartenait qu'à une famille. C'était une famille hollandaise qui était le deuxième plus gros, qui avait le deuxième plus gros patrimoine de Hollande derrière la reine. Ces gens qui s'appellent Brenninkmeijer, ils ont CEA et ils avaient consolidé le secteur des collèges en Angleterre. Et ils sont venus en France et ils ont vu que dans l'enseignement secondaire en France, il n'y avait rien à faire. Que c'était soit public, soit sous contrat d'association essentiellement confessionnel. Et que par contre, la France était assez libérale en matière d'enseignement supérieur privé. Et ils ont racheté une première école de commerce et c'est ce qui est devenu aujourd'hui Galiléo. Bon, et donc à l'époque, ça s'appelait Studialis. Ils sont venus voir en 2008. Et donc, j'ai commencé à travailler avec eux. Voilà. Et à l'époque, mais personne n'avait vu vraiment ce secteur, y compris moi, d'ailleurs. Et donc, bon, et puis après, ça a explosé. Alors, moi, je reviens sur ce que Laurent a dit tout à l'heure, en fait, sur la professionnalisation. Je crois que la différence, ce n'est pas la professionnalisation. Et c'est ça ce qui intéresse les investisseurs, en fait. C'est ça votre question. C'est l'agilité, en fait. Et l'agilité, en fait, elle est... je dirais, dans deux domaines, à la fois dans les thématiques et dans les formats. Alors, les thématiques, je vous donne un exemple, en fait. On a travaillé pour un jeune garçon qui avait fait HEC, qui avait fait un master dans le développement durable à HEC, qui avait 30 ans, et qui s'est dit, dans le développement durable, il y a des gros besoins, et il n'y a pas de formation pour les gens qui sortent du bac. Il a créé son école en 3 ans, et il avait 1500 étudiants. Et aujourd'hui, il en a 4000. Donc, voilà. Donc là, il n'y a eu aucun délai entre la conception et la réalisation. Donc voilà, et il y a tout. Enfin, moi, j'en vois tout le temps, il y a des créations. C'est ça ce qui est formidable. C'est qu'à un moment, on a pensé que c'était la consolidation qui drivait le système. Et pas du tout. Il y a des tas de gens qui créent des écoles dans différents domaines. Et avec. Donc ça veut dire qu'il y a des besoins qui ne sont pas remplis par ce qui existe, en fait. Et la deuxième chose, c'est le format. En fait, aujourd'hui, je complète ce que disait Laurent, le côté béton de quand j'ai commencé il y a 15 ans, on faisait une droite, on prenait un étudiant, on le gardait 5 ans, notamment dans le privé. Aujourd'hui, c'est plus du tout vrai. Je crois que la durée moyenne de rétention, elle est de 2 ans et demi. Donc, il faut...
2 ans et demi dans le privé. Hein.
Dans le privé.
Versus 3 ans et demi il y a
5 ans. Voilà, exactement. D'accord. Donc, c'est une des raisons, en fait, aussi de l'appétit des investisseurs, à un moment, c'était la visibilité. Alors, elle est toujours là, c'est quand même pas mal de savoir qu'on a quelqu'un, enfin, on a un chiffre d'affaires pendant 2 ans et demi, mais avant, c'était pendant 5 ans. Bon. Et le deuxième facteur d'agilité, c'est les formats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les frontières. Moi, j'ai commencé autrefois à conseiller des boîtes de formation. J'étais le conseil de Demos, qui était le concurrent de Segos. Aujourd'hui, la formation intéresse tous ces messieurs du privé qui sont là. C'est-à-dire que c'est la formation tout au long de la vie. Mais c'est un point extrêmement important, en fait. Et ce n'est pas uniquement l'executive education de MBA très cher. C'est, nous, on travaille beaucoup en ce moment. On a fait au moins 3 opérations et on continue à en faire dans ce qu'on appelle des bootcamps. Bon, bootcamp, c'est de former des gens en 3 mois, qui sont au départ d'ailleurs plutôt des chômeurs, et qui, en 3 mois, dans des métiers pénuriques, mais au départ c'était des développeurs web, mais aujourd'hui c'est du marketing, enfin c'est n'importe quoi en fait, c'est la vente, qui sont des métiers hyper pénuriques en fait. Il y a des centaines de milliers d'emplois pénuriques qui vont du coiffeur à la data, mais donc ils répondent à ces besoins, et ça c'est le privé qui s'en est emparé. Qui sont au départ des sociétés particulières, enfin des sociétés qui ont été créées pour la reconversion, mais qui commencent à s'intéresser à l'éducation. Nous, on travaille sur une société qui formait donc en bootcamp des chômeurs au marketing web, et aujourd'hui, ils s'intéressent aux étudiants. C'est-à-dire qu'il y aura un bootcamp pour les étudiants pour les remettre au niveau d'un mois, et après, ils les mettent en apprentissage. Donc, tout ça, c'est le privé qui l'a fait. Alors, bon, je n'ai pas répondu à votre question, c'est pourquoi il y a un marché, mais j'ai répondu indirectement. Au départ, les investisseurs sont intéressés à ce secteur parce que, bon, c'est pour des raisons comme, qui sont basiques, hein, comme ils sont intéressés à la santé. Moi, je compare souvent l'éducation et la santé, c'est-à-dire c'est des besoins essentiels. Bon, quels sont les besoins essentiels? La nourriture, la santé, l'éducation. Donc voilà, c'est pas plus bête que ça. Ils se sont dit qu'ils n'étaient pas complètement couverts par le public. Il y a eu aussi l'effet, je vous dis, de la visibilité. Mais voilà, mais et en France, ils sont tombés sur un environnement relativement favorable, puisque autant dans le primaire et secondaire, c'est très difficile, il y a très peu de privés, ça représente moins de 1% des élèves, Autant dans le supérieur, ben, la France était assez libérale.
Alors, un pays très libéral sur l'enseignement supérieur privé. Julien Jacquemin, vous avez publié plusieurs tribunes, études, etc. Et vous interrogez la qualité des formations dispensées, les conditions, tout compte fait, de cette complémentarité-concurrence. On y reviendra, hein, complémentarité-concurrence. Vous êtes parfois sévère, hein, moi j'ai lu vos tribunes, donc vous allez être aussi notre poil à gratter dans cette table ronde. Mais après, je redonnerai la parole à Stéphane Braconnier, hein, qui voulait redire des choses, puis j'ai une question précise à lui poser comme président d'université.
Bonjour.
Julien.
Je suis pas le seul enseignant-chercheur, mais je suis le seul à l'être complètement, donc je peux me permettre une certaine impertinence, donc désolé davantage, mais je n'ai pas de responsabilité institutionnelle. D'ailleurs, c'est voilà. Une très bonne excuse de travailler sur ces questions-là, quand on me demande de participer à un organe institutionnel. J'ai dit, oui, mais il y a peut-être des conflits d'intérêts potentiellement avec mes recherches. C'est une très bonne excuse pour ne pas devoir s'investir.
Donc il va pouvoir critiquer les business schools.
Et donc, je travaille sur ces questions-là. Il y a une communauté de chercheurs relativement étroite en France, mais relativement importante dans le monde qui traverse ces questions-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de réfléchir et d'avoir, peut-être pas des réponses, mais en tout cas d'avoir certains logiciels qui nous permettent de comprendre la situation avec les analyses théoriques sur la question, et ça, on va en discuter d'ici peu, et aussi l'analyse des données qui, dans certains cas, sont disponibles et qui permettent de comprendre si effectivement ces établissements peuvent apporter une plus-value au niveau de l'enseignement supérieur, et surtout, parce que ça, je crois que c'est le plus important, surtout pour les étudiants. Parce que ici, vous êtes des représentants d'une certaine manière d'établissement d'enseignement supérieur. On parle d'étudiants et c'est vraiment eux qu'il faut mettre au centre au niveau de l'apprentissage. Je ne vais pas rediscuter au niveau du constat. Je crois qu'on est tous d'accord au niveau du constat. Gros besoin au niveau du marché du travail, grosse demande au niveau des étudiants, massification encore plus grande de l'enseignement supérieur et aussi évolution démographique très importante au niveau des jeunes, chose qu'on sait depuis au moins 18 ans et quelques mois. Et la question, c'est qui va remplir ce besoin sur le marché. Première possibilité, on pourrait demander à des établissements publics. C'est ce qui a été fait dans les années 90. On a dit, on va créer des nouveaux établissements. C'est le plan Université 2000 de Jospin. C'était l'idée, on va créer des nouveaux établissements, des IUT. Il y a des études récentes, entre autres une étude David Nimier, ou Nimier David, je ne sais plus dans quel sens ça va, qui montre que ça a eu un impact positif sur les économies locales et sur le développement local. Ça a permis de resserrer, de diminuer une certaine fracture économique au niveau local. On savait qu'il allait avoir une évolution démographique depuis le début des années 2000, qui allait être très favorable avec des besoins énormes. Il n'a pas été décidé de faire appel à la création de nouveaux établissements, même si on regarde depuis 2007 et la LRU, ça a plutôt été vers une rationalisation, un regroupement d'établissements, plutôt que vers la création de nouveaux établissements. Autre possibilité au niveau public, c'est de dire à certains établissements déjà existants, allons créer des nouveaux campus à gauche et à droite. Pour ça, ça nécessite deux choses. Ça nécessite d'avoir les institutions et une certaine forme de liberté pour pouvoir le faire, ce qui semble assez compliqué, comme ça a été discuté, et surtout d'avoir les financements. Si on regarde au niveau du financement public par étudiant, au niveau des établissements dans lesquels certains d'entre vous travaillent, disons que c'est un peu le col du calibier, plutôt dans le sens de la descente que dans le sens de la montée. Donc c'est un peu difficile de demander à ces acteurs-là de remplir ce besoin. Donc qu'est-ce qu'a décidé l'État et ce qui a été acté principalement au niveau 2018, au niveau de la réforme de l'apprentissage et également au niveau de la réforme du compte professionnel, c'est de se dire on peut peut-être demander à de nouveaux acteurs, soit de consolider les acteurs du privé qui sont déjà présents, ou soit favoriser, en tout cas ne pas mettre de règles spécifiques par rapport à l'émergence de nouveaux acteurs. Et ces acteurs, principalement nouveaux, sont des acteurs d'un type spécifique, donc qui ne sont pas entre la fracture privée-publique, mais au sein des établissements privés à but lucratif et établissements privés à but non lucratif. Ce qu'il faut savoir, si on regarde dans un cadre historique, historiquement, les établissements d'enseignement supérieur sont tous privés. Si on regarde les premières universités françaises, elles étaient privées. C'est juste au niveau du Moyen-Âge, au niveau de la révolution industrielle, plus pour la recherche, au niveau du Moyen-Âge, au niveau de l'enseignement, où l'État s'est dit peut-être qu'il y a un investissement intéressant à faire pour le développement économique, mais aussi pour prêcher la bonne parole au niveau public, d'investir énormément et de prendre un rôle actif dans l'enseignement supérieur. Et si on regarde même maintenant, à l'heure actuelle, à travers le monde, on a quand même beaucoup d'établissements privés qui ont une part de marché non négligeable, si on regarde au niveau européen, mais également au niveau à l'étranger, au niveau américain.
La situation française n'est pas atypique au niveau...
Où elle est plus atypique, la situation française, c'est par rapport à ces nouveaux acteurs, à des enseignements privés à but lucratif. Ce qu'on observe à travers le monde, c'est qu'il y a une certaine réticence à avoir ce genre d'acteurs et il y a des règles qui sont mises en place. Si on regarde par exemple en Inde, il y a quelques années, ils ont décidé de mettre dans le texte de droit de base qui est la Constitution, de dire ben, lucre et éducation, ça ne peut pas aller ensemble. On a des pays comme la Belgique ou la Suisse qui ont décidé de renforcer encore plus leur législation et de dire bah, on peut pas utiliser tous les termes qu'on veut pour nommer tous les établissements, on peut pas les appeler haute école, c'est l'équivalent des grandes écoles, on peut pas les appeler université, business school et tout ça, on met une barrière à l'entrée pour éviter l'émergence de ces établissements. Pourquoi ? En fait, il y a un article assez fondamental qui a été publié dans le Yale Law School en 1980, donc ça date pas d'hier, désolé hein, pour mon ton un peu professoral, un article écrit par Henry Huntsman, je sais pas si certains de mes collègues le connaissent, qui est un article assez incroyable, il est disponible sur internet si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous l'enverrai. Et en gros, ce qu'il essaie de comprendre, c'est pourquoi on observe aux États-Unis, c'est quelque chose qui s'applique aussi au reste du monde, qu'il y a principalement des établissements privés qui sont actifs dans l'enseignement supérieur, mais privé à but non lucratif, ce qu'on appelle les non-profits. Et en gros, ce qui dit la grosse différence par rapport aux for-profits, c'est qu'il y a cette contrainte de non-distribution des profits. Donc l'argent doit être réinvesti dans l'institution. Ce qui fait que ça change complètement en fait, les incitants qu'ont ces établissements par rapport à leur mode de fonctionnement. Ce qu'ils vont vouloir faire, c'est dans un premier temps, surtout mettre l'emphase sur attirer des étudiants en leur faisant miroiter des programmes de qualité. Malheureusement, dans le secteur de l'enseignement supérieur, c'est quelque chose qui est difficilement observable. Et d'autant plus lorsqu'on attire, comme le font les établissements privés à but lucratif en France, des étudiants de première génération dont les parents n'étaient pas actifs, n'ont pas été dans l'enseignement supérieur et qui n'ont pas dans leur entourage des personnes, des repères d'apprentissage pour savoir si oui ou non ce programme-là est intéressant ou pas. Et donc, ce qu'on observe, c'est que ces établissements vont mettre beaucoup d'emphase sur essayer d'attirer les étudiants vers eux, plutôt que d'investir dans la qualité qui, elle, a un coût et elle est visible uniquement au cours de la scolarité. Et donc, ce qu'on va avoir, c'est que les étudiants vont être dans une situation prise comme dans un hold-up, ils vont venir s'inscrire parce qu'on leur a fait miroiter certaines choses, certains programmes, que ce soit en termes de qualité, mais aussi en termes d'adéquation par rapport à ce qu'ils ont envie de retrouver à travers leur carrière future sur le marché du travail, mais aussi au niveau de la formation, première chose. Et deuxième chose qu'on va voir, c'est qu'on va avoir les étudiants vont être pris en hold-up parce qu'ils auront payé leurs frais d'inscription et ne pourront pas revenir en arrière. Et donc, c'est pour ça qu'on a dans beaucoup de pays, on a une forme de régulation ex ante pour éviter l'émergence de ce type d'école parce qu'on a cru bon croire que c'était peut-être pas la solution nécessaire pour remplir un trou dans le marché. Et c'est ce qu'on va observer principalement dans des marchés où il y a une forte asymétrie d'information, je pense, l'aide à la personne, dans le secteur médical. Et là, ce qu'on observe, et je pense, désolé de critiquer un peu mes collègues de table de l'enseignement supérieur privé, à but lucratif, je pense que le problème principal ne vient pas de leur part, ça vient au niveau, je pense, je ne sais pas si on va directement parler de la régulation, mais c'est par rapport à la régulation, et chose intéressante, et je pense que c'est la question peut-être qui va être mise en avant, c'est l'évaluation de cette réforme de l'apprentissage. Est-ce que ça a été bénéfique pour un étudiant d'aller plutôt dans un établissement par rapport à un autre? Alors il faut savoir, j'ai été contacté mes collègues de l'Institut des politiques publiques de la Paris School of Economics, je leur ai demandé voilà, est-ce qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui travaillent sur la question? Donc ils travaillent pour le ministère du Travail, il y a une étude qui va sortir au mois de décembre à ce sujet-là. Donc moi je leur ai posé la question, je ne vais pas dire à 10 000 ou à 100 000 euros, mais plutôt à 100 millions, voire un peu plus de millions d'euros. Est-ce qu'on voit un différentiel entre les étudiants actifs qui ont suivi une formation en apprentissage dans l'enseignement public, supérieur, privé et privé à but lucratif? Et si vous voulez la réponse, ben, en fait, le ministère du Travail qui a commandité l'étude ne leur a pas donné l'information à ce sujet-là. Et donc, je pense que c'est ça la question principale. On est dans un contexte où on parle d'un public quand même bien spécifique qui, je pense, ils peuvent pas acheter d'alcool, peuvent pas parier, peuvent pas, parce qu'ils ont pas encore 18 ans, parce que c'est maintenant qu'ils décident, hein, c'est au mois de novembre, au mois de décembre, pour la réunion de famille au mois de décembre, essayer de discuter avec le tonton un peu relou qui va demander alors tu vas faire quoi l'année prochaine. La plupart d'entre eux n'ont pas encore 18 ans, on va leur demander de prendre une décision qui financièrement, ça c'est pas si important financièrement, même si on parle de plusieurs dizaines de milliers, mais en termes de leur vie, c'est quelque chose, c'est un bagage qu'ils vont avoir, c'est un boulet qu'ils vont avoir pendant toute leur vie. Parfois c'est pas un boulet, hein, fort heureusement. Et en fait, on n'a pas pris la précaution par rapport à cette prise de décision-là, et tout simplement, on n'a pas l'information. À l'heure actuelle, on ne dispose pas des données pour pouvoir juger si oui ou non ces programmes ont permis de jouer leur rôle de piédestal qui est souvent vendu par les personnes qui se retrouvent à la tête de ces institutions-là.
Bien, bah, le débat sur la régulation est lancé. Bon, on a la chance quand même à cette tribune, c'est que tout le monde est pour la régulation sous des formes différentes. J'ai lu un peu tous les textes. Évidemment, on n'a pas invité à ce séminaire les escrocs des petites écoles qui aujourd'hui ont fait faillite, etc. On a tous eu, ça a alerté tout le monde, hein, cette question. Donc tout le monde est pour la régulation. Mais d'abord une question, Stéphane Bracconi. Est-ce que tout le monde a vocation à aller à l'université? C'est une question qu'on peut se poser quand on se dit il y a 25%, il y en a même plus parce qu'il y a le public non universitaire. C'est une question qui peut être légitime. On le sait en Suisse, comment c'est. C'est pas tout à fait le même système.
Bah, on a un modèle en France qui est un modèle que chacun connaît, c'est-à-dire que c'est une université publique qui est relativement ouverte, voire très ouverte, même si évidemment Parcoursup a mis nous permet de nuancer un peu les choses, puisque il y a des mécanismes, on va dire, de régulation d'entrée à l'université. Ce sont pas des mécanismes de sélection, ce sont des mécanismes de
régulation. Il y a déjà une régulation.
Mais il y a déjà une régulation à l'entrée à l'université. Donc je ne sais pas si tout le monde a vocation à aller à l'université. Moi, je crois évidemment que il y a une partie du public qui sort notamment de formation plus professionnalisante déjà dans le secondaire, qui n'a pas forcément vocation à aller dans des formations généralistes à l'université. Ce qui ne veut pas dire que ça les condamne, parce que là, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Martin Hirsch tout à l'heure. Ça ne veut pas dire que ça les condamne nécessairement à ce que les portes d'un certain nombre de formations leur soient fermées ultérieurement. D'abord, parce qu'il y a des mécanismes aujourd'hui qui vont permettre, notamment la validation des acquis d'expérience, de reconnaître, et ça, l'université, on l'utilise beaucoup, de reconnaître une expérience professionnelle, une première expérience professionnelle en équivalence d'un certain nombre d'années de formation, et puis parce qu'il y a des passerelles, des voies d'entrée parallèles, il y a toute une série de mécanismes qui nous permettent d'accueillir des publics beaucoup plus hétérogènes. Donc je dirais que tout le monde n'a pas vocation, compte tenu de sa formation antérieure, à entrer à l'université, qui est une formation évidemment académique, en première analyse, adossée à la recherche, mais tout le monde a vocation, en tout cas, à un moment ou à un autre, à passer par l'université. Alors, si je peux juste rebondir sur une ou deux réactions sur ce qui a été dit, d'abord sur la régulation et le fait que l'écosystème français, c'est vous qui l'avez dit, je crois, est plutôt favorable finalement à l'enseignement supérieur privé. On a effectivement, et là je prends ma casquette plutôt de juriste et de spécialiste de droit public économique, on a un système français qui est plutôt favorable à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie. Et cette liberté-là, qui n'est pas une liberté absolue, naturellement, mais c'est une liberté qui est quand même constitutionnellement protégée et qui, par voie de conséquence, fait que notre système juridique, dans sa globalité, est plutôt favorable à l'entrée de tous les acteurs possibles, quelle que soit d'ailleurs la qualité de ces acteurs. Vous avez parlé des escrocs, mais eux aussi bénéficient de la même liberté, de la liberté du commerce et de l'industrie ou de la liberté d'entreprendre. Donc ça, c'est ce qui explique qu'on a un système qui est beaucoup plus permissif, probablement, que d'autres systèmes juridiques. Vous avez parlé de l'Inde. En Asie du Sud-Est, il y a des systèmes qui sont éminemment moins restrictifs, même si il y a une présence très forte de l'enseignement supérieur privé. Mais il y a un système qui est beaucoup moins permissif pour l'enseignement privé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la régulation. Quel type de régulation ? Toutes les études sur la régulation, et j'ai pas beaucoup travaillé sur ces questions-là également, toutes les études sur la régulation montrent qu'il y a plusieurs modèles de régulation. Il y a notamment deux modèles. Il y a le modèle de régulation exogène, c'est-à-dire c'est un organisme extérieur qui vient réguler une activité donnée, puis un modèle plus endogène qu'on appelle très souvent l'autorégulation. Aujourd'hui, le système français, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, a fonctionné beaucoup sur un modèle d'autorégulation. C'est-à-dire que l'enseignement supérieur privé était certes en partie régulé par le ministère de l'enseignement supérieur, mais c'était aussi les conférences qui géraient, qui régulaient, qui délivraient des labels, etc., etc. Donc on avait un modèle qui était un modèle d'autorégulation. Est-ce que ce modèle d'autorégulation suffit aujourd'hui ? Je n'en suis pas persuadé. Et est-ce qu'il faut passer à un modèle de régulation exogènes, c'est-à-dire par des organismes indépendants, mais qui sont des organismes indépendants publics ou parapublics, ça c'est une question. Et toutes les études qui sont faites, les rapports qui sont rendus, ils ont été cités, HCERS, etc., etc., toutes ces études-là, la Commission des affaires culturelles du Sénat, montrent qu'il y a une vraie interrogation sur comment on régule et qui régule l'ensemble de l'enseignement supérieur privé. Puis troisième observation sur ce qui a été dit tout à l'heure sur les rigidités des universités et la difficulté des universités, le caractère un peu technocratique des universités, c'est ce que vous avez laissé entendre. Là, je ne suis pas d'accord avec la manière dont les choses ont été présentées. La difficulté aujourd'hui, ce n'est pas les universités. La difficulté, c'est la tutelle. C'est le ministère de l'enseignement supérieur. Les universités, et ce n'est pas les DGS qui sont présents dans la salle, qui vont me démentir. Les universités, elles sont autonomes.
On va interroger Anne-Sophie Barthès.
Et elles sont de plus en plus autonomes. Elles sont de plus en plus autonomes. Donc nous avons les moyens de faire. Nous avons les moyens de gérer nos ressources humaines. Nous avons les moyens de gérer notre budget. Mais la difficulté, c'est la tutelle. Et notamment sur un sujet en particulier, qui a été d'ailleurs évoqué, c'est l'immobilier. C'est-à-dire que si on veut aujourd'hui développer un certain nombre de nouvelles formations innovantes, si on veut répondre aux attentes des uns et des autres, il faut qu'on soit capable d'avoir une vraie stratégie, une vraie politique immobilière. Or, les universités, ça c'est une vraie différence avec les établissements privés, les universités sont considérablement bridées dans leur capacité d'investissement immobilier. Alors, il se trouve que je préside un établissement qui a réussi le tour de force d'acquérir un immeuble dans le 6e arrondissement de Paris il y a peu de temps, pour plusieurs millions d'euros, mais ça a été un tour de force, parce que il a fallu mobiliser de l'argent public, il a fallu mobiliser nos fonds de roulement, ça on pouvait le faire facilement, et puis surtout il a fallu aller chercher des recettes à l'extérieur, et des financements extérieurs. Mais ça, c'est une complexité absolue, et c'est absolument insupportable pour nos établissements. Donc ça, c'est un exemple. J'aurais pu citer d'autres exemples, c'est-à-dire le fait, par exemple, qu'il y a un temps et une énergie qui sont consommés par les universités, non pas au service de l'université, mais au service de la tutelle pour rendre des enquêtes, répondre à des questionnaires qui prennent énormément de temps et qui sont très consommateurs et qui sont surtout très tétanisants, en quelque sorte, pour nos structures. Donc, lorsqu'on dit on a un problème d'agilité administrative, c'est une agilité administrative dont je maintiens qu'elle n'est pas liée tant, ça peut arriver, hein, je peux nuancer le propos, mais c'est une démocratie, c'est une technocratie, si vous voulez, qui est externe à nos établissements.
Merci. Alors Gérard Pignot, puis après Martin Hirsch, parce que je voudrais
très court.
Hein. Oui, très court, mais j'ai une question précise à José Milano et Martin Hirsch.
Oui, la technocratie dans les universités est une technocratie importée et qui vous est imposée par la tutelle publique, évidemment. Hein. Il y a un proverbe à Lyon qui est, je ne sais pas si je voudrais dire, mais c'est génial de travailler avec des universitaires, c'est terrible de travailler avec des universités. Parce qu'on sent que les gens sur le terrain sont dynamiques, etc., mais que par contre, ils ont une espèce de bureaucratie importée. Juste une petite remarque.
Vous parlez à des DGS. Hein,
oui, je sais. Oui. Moi, je pense qu'il y a quand même une chose que j'ai retenue dans l'industrie. Dans l'industrie, on vous dit toujours qui est votre client. Et le client, c'est celui qui vous paye. Dans l'université, qui vous paye ? C'est l'État. Donc cette bureaucratie importée, elle vient aussi en partie du modèle économique qui est que celui qui paye, c'est pas en totalité, mais c'est en grande partie l'État, et que l'État impose donc beaucoup de choses, alors que je suis d'accord avec vous, la réalité, c'est que c'est les étudiants. Troisième chose, il y a un très bon rapport. Alors moi, j'ai lu le rapport de Laurent Batch avec beaucoup de plaisir, et voilà, ça fait plaisir de voir des rapports écrits par des gens compétents. Il y avait eu un autre rapport sur l'enseignement supérieur privé il y a une douzaine d'années qui avait été écrit par l'IGAENR et qui disait des choses assez semblables, et qui avait été écrit, je pense, peu avant la création des ESPIC. Donc c'est un rapport qui est intéressant à lire. Il n'y a aucune corrélation dans les pays entre le taux d'accès à l'enseignement supérieur et le taux de chômage. Mais pourquoi ? Parce que c'est bien plus compliqué que ça. Je rappelle quand même qu'on vit dans un pays qui est passé de 25% d'industrie à 12% d'industrie, qui d'un coup, en 2-3 ans, se dit « Waouh, on va refaire de l'industrie !» Mais étonnez-vous qu'on ait du mal à trouver des gens. Enfin, je veux dire... voilà. Donc pourquoi on avait, enfin cette corrélation, elle est beaucoup plus complexe que ça. Elle dépend de la structure économique, etc. Et je terminerai en disant qu'aujourd'hui, si vous voulez les meilleurs taux d'emploi et les meilleurs salaires, il faut faire soudeur, Aujourd'hui, ce qu'on m'a dit, c'est qu'un soudeur, alors un soudeur compétent, un soudeur inox qui travaille dans le nucléaire, il y en a qui sont embauchés jusqu'à 6000 euros par mois. Et garçon boucher, je rappelle qu'aujourd'hui, un garçon boucher dans un supermarché est embauché à un salaire supérieur à un chargé de recherche CNRS. Voilà. Alors pourquoi ? Ça attire pas forcément beaucoup, mais aussi soudeur, il y a 5 ou 6 ans. Mais soudeur, il y a 5 ou 6 ans, c'était Pôle emploi direct. Toutes les entreprises qui employaient beaucoup de soudeurs étaient en train de fermer. Donc, voilà, c'est aussi des changements de politique économique comme ça qui rendent nos vies compliquées. Et effectivement, je suis bien d'accord, ce qui manque parfois à notre système, c'est l'agilité.
Alors, on a abordé le financement public par l'État. Il y a une critique qui monte en permanence sur les écoles privées, c'est la manne de l'apprentissage qui créerait les conditions, tout compte fait, d'une compétition déloyale. Alors, on se doit d'aborder ce sujet, même s'il y a une réflexion sur les niveaux de prise en charge aujourd'hui, dont on ne sait pas d'ailleurs, elle est actée pour cette année, mais pour le futur, jusqu'où ça va aller. Quelle est votre opinion là-dessus, sur cette accusation, tout compte fait, de profiter d'une manne publique sans les contraintes ? C'est un peu, je résume, hein. Martin Hirsch, chez José Milano, allez-y.
Merci.
Allez-y.
Je ne vais pas du tout fuir la question, au contraire, mais je reprends juste un point. Premier point par rapport à ce que disait Julien Jacquemin tout à l'heure. Nous, on a un animal un peu particulier, parce qu'on est privé à but non lucratif, sans distribuer de dividendes à nos actionnaires. Donc avec réinvestissement à 100% de tout ce qui peut être profit, dans le groupe d'éducation. Donc c'est un peu particulier, je ne sais pas comment on nous qualifierait, mais on a cette caractéristique-là. Deuxième chose, tout le monde a dit que l'éducation et l'enseignement supérieur étaient un marché où il y a de la concurrence. Je pense quand même qu'on ne peut pas considérer que c'est un marché comme les autres. Je trouve qu'il y a deux choses, il se trouve que c'est deux choses auxquelles j'ai travaillé, que ce soit la santé ou l'éducation. Des conditions de marché, il y a de la concurrence. Moi, j'ai connu de la concurrence entre l'hôpital Cochin et l'hôpital de la Pitié pour la chirurgie digestive et plein d'autres choses comme ça. Mais je pense que l'éducation et la santé, il n'y a pas beaucoup d'autres biens communs comme ça, ne peuvent pas être considérés comme des marchés comme les autres et comme des biens comme les autres. C'est-à-dire, quand on concilie, quoi, ça, l'un porte sur la vie et l'autre porte sur l'avenir. Voilà. La vie et l'avenir. Ce n'est pas des biens comme les savonnettes ou les bagnoles. Voilà. C'est vraiment fondamentalement différent. Ce qui conduit à des comportements et ce qui conduit à rendre légitime la régulation dont on parle. Voilà. Et on pourrait dire la même chose si on parlait des hôpitaux et des cliniques privées, etc. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Troisième remarque qui a peut-être trait avec celle-là. On a en commun à traiter un sujet majeur dans ce pays. Julien Jacquemin, on a dit un petit mot sur qui étaient ceux auxquels on s'adresse. Il faut rappeler cette statistique peu glorieuse. En France, quand on a des parents diplômés de l'enseignement supérieur, on a 3 chances sur 4 de devenir diplômé de l'enseignement supérieur. Quand on a des parents qui ne le sont pas, on a 1 chance sur 4. Et l'un des défis, et puis il y a ce sujet de ces inégalités, il y a des sujets de diversité. Je regarde la salle. Regardez-vous. Notre responsabilité, c'est en 10 ans, elles sont un peu différentes de ce qu'elle est aujourd'hui. On est tous blancs. Ça vous... Quoi, pardon, hein, c'est... Ah. Il y a un vrai sujet dans ce pays de la manière dont, et qui est mon avis, au cœur du sujet qu'on a à traiter ensemble. Donc si on se tape dessus sans résoudre ce problème, ça ira pas bien loin. Et si on se dit qu'effectivement, dans les problèmes sociaux et dans les problèmes de violence et dans les problèmes que l'on a dans ce pays, il y a un sujet sur lequel on a une partie de la réponse et on n'a pas encore fait le boulot, ça me semble être celui-là. Je dis cela parce que ça aussi, c'est un rapport avec la régulation. Et c'est un rapport avec votre question sur l'apprentissage sur lequel je viens d'emblée. Si on raisonne en termes de coûts, alors là, c'est un sujet sur lequel la transparence n'est pas complètement faite. Je ne sais pas si vous savez quel est le coût de formation d'un étudiant dans une université. Moi, je ne sais pas s'il faut prendre les chiffres qui traînent, et je ne pense pas qu'ils disent 11 000 euros par étudiant et par an, mais qui inclut de la recherche, etc. Je ne sais pas s'il faut prendre les coûts du Conseil d'analyse économique d'il y a deux ans, qui disent 3 500 euros pour une licence, 5 000 euros
pour
un master, etc. etc. Voilà. Sur lequel je ne sais pas si on raisonne en nombre d'étudiants diplômés ou en nombre d'étudiants parmi les études, sinon ça fait varier du simple au double les coûts. Voilà. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Ce que je sais, c'est que quand on regarde les coûts de l'alternance, finalement, le niveau de prise en charge par le financement de l'alternance, dont on ne peut pas qualifier de financement public pur, parce que les trois quarts, c'est des cotisations des entreprises. Hein, Alors, je ne pense pas que ça soit du financement public exactement comme le reste, quand trois quarts sont financés par des cotisations d'entreprises, par l'ex. Moi, je suis vieux, hein, donc je parle encore de taxes d'apprentissage. C'est un nom qui m'échappera jusqu'à la fin de mes jours, le nouveau nom, mais ça existe toujours. Voilà, je ne sais pas quoi. Bon, bref. Quand on regarde cela, le taux est du même ordre. C'est quoi le niveau de prise en charge moyen? C'est à peu près 8 000 euros par étudiant, par élève et par an. Hein. C'est à peu près ou 7 000 ou quoi.
5.
Comment
7 500, 7 600
en moyenne. Donc en fait, la question qui se pose là-dessus, quoi, moi, telle que je l'aperçois, c'est effectivement, est-ce que... on neutralise l'effet coût pour l'étudiant par rapport à ses choix. C'est-à-dire que s'il choisit d'aller faire une licence de droit chez M. Braconnier, s'il choisit d'aller faire un bac plus droit d'assistant juridique chez nous, s'il choisit d'aller, etc., est-ce que financièrement, on peut lui offrir des conditions qui soient à peu près neutres? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un endroit où il devra payer 40 000 balles, un endroit où il paiera payer 0 ou 20,50 euros, un endroit où il paiera 10 000, un endroit qui paie 15 000. Je trouve intéressant de regarder quelles sont les conditions communes qu'on pourrait pour savoir comment on neutralise cela. Finalement, l'émergence de l'alternance dans l'enseignement supérieur conduit à apporter une partie de la réponse. Je ne sais pas si elle est bonne ou qu'elle n'est pas bonne, mais on ne peut pas dire qu'elle soit illégitime. C'est-à-dire, elle conduit à faire en sorte qu'un jeune qui choisisse soit d'aller vers quelque chose qui soit donc en alternance, plus professionnalisant, ou qu'il s'agisse de quelque chose de plus académique, d'avoir à peu près des conditions économiques qui soient les mêmes. Et je pense que ce sujet est majeur pour deux raisons. C'est-à-dire que si on veut... que l'orientation des jeunes se fasse en fonction de leur aspiration et de leur capacité et des besoins de l'univers du travail. Je ne sais pas si on parle uniquement du marché du travail, mais ça va du besoin des hôpitaux au besoin des start-up en passant par des besoins des entreprises. Si on veut que ça soit ça les drivers et non pas le coût des études, il faut trouver un système pour couvrir l'ensemble du professionnalisant et de l'académique avec des conditions de prise en charge qui soient... à peu près équivalente. Voilà. Et donc, pourquoi ça se développe un peu plus dans le privé que dans le public? Et pourquoi dans le public, ils arrivent, vous me dites si je dis une bêtise, à le développer plus au niveau de master qu'au niveau du premier cycle Pourquoi? Parce qu'assez naturellement, effectivement, et c'est une question qu'on évoquait, la structure du corps enseignant va être à peu près différente. Hein. Dans un côté, on aura des enseignants... Alors, les facs de droit, c'est un peu différent et c'est un cas très particulier, mais dans le... Et la fac de médecine aussi, c'est un cas particulier.
Mais si on prend... beaucoup de cas particuliers à l'université.
Il y a beaucoup de cas particuliers, mais il reste des cas assez généraux dans des grandes filières à 100 000 étudiants par an, dans lequel ça sera plus des enseignants professionnels de l'enseignement que des enseignants professionnels qui viennent enseigner.
que les liens avec les entreprises ne sont pas exactement les mêmes et l'aptitude à avoir des liens avec les entreprises n'est pas forcément le même. Donc, il peut y avoir une logique à ce que l'alternance se développe davantage, notamment pour la période bac plus 3, dans un secteur privé quel qu'il soit, que dans le secteur académique ou dans le secteur public académique. À partir de là, si on ne veut pas que ça soit du vol, on retombe sur nos questions de régulation, et je vais dire trois mots, de quelle peut être la logique. Donc, c'est quoi la régulation ? C'est de faire en sorte qu'il n'y ait ni tromperie pour les étudiants, ni tromperie pour la puissance publique quand elle finance. Voilà. Et, c'est à peu près ça ce qu'on cherche à faire. Alors, un, si on parle de la régulation d'un enseignement dont la professionnalisation pure n'existe pas, comme l'académisme pur, on l'a vu, on peut tordre le cou à ça, mais dont la prédominance est de faire en sorte qu'à la sortie de la diplomation, les gens travaillent avec un métier qui soit à peu près au niveau de rémunération, au niveau de qualification, de responsabilité, d'expertise et de reconnaissance que justifie les 2, 3 ou 5 ans d'études qu'ils ont fait, il faut effectivement faire en sorte que cette employabilité soit mesurée correctement, de manière ferme et de manière précise et détaillée. Ce que je veux dire par là, c'est de dire que si je recrute que des super mentions très bien de bac général pour les foutre 2 ans dans un truc où ils font surtout des soirées d'école et pas autre chose, pour autant, ils auront une employabilité probablement de 98% en sortant. Voilà. Donc, si on veut sortir de ces problèmes-là, il faut mesurer l'employabilité quand on a une mention très bien, quand on n'a pas de mention, quand on a un bac général, quand on a un bac pro, quand on a un bac, etc., etc., et d'obliger à mesurer le trajet que l'on fait faire aux jeunes que l'on prend en charge. Premier point important, pardon. Deuxième chose, on a un sujet dans l'enseignement davantage professionnalisant qui sont, on a 2 sujets de sélection. A priori, est-ce qu'on reconnaît un univers dans lequel on ne va pas faire rentrer les élèves en fonction des notes qu'ils ont obtenues dans le secondaire ? Et dans ce cas-là, là aussi, il faut mesurer les progrès qu'on fait sur d'autres critères que ceux-là. Et deuxièmement, on ne sélectionne pas les enseignants en fonction de leur aptitude à avoir eu un doctorat, des publications, une HDR et tout cela. Pour autant, est-ce qu'il faut des critères sur qui est apte à pouvoir enseigner ? Nous pensons que oui. Nous pensons que oui. Nous pensons qu'il faut des procédures pour recruter les enseignants. Alors, pas forcément celui qui intervient 2 heures dans l'année pour un truc hyper pointu sur je sais pas quoi, mais ceux qui enseignent un nombre d'heures conséquent. Il faut des procédures pour les recruter, qui ne sont pas exactement les mêmes que l'université, mais des procédures collégiales, de projets, des choses un peu procédurées et évaluables. Et il faut un minimum de formation, qui ne serait pas mauvais par ailleurs parfois, de formation pédagogique à l'université aussi. Et peut-être qu'on peut faire des choses communes sur un peu de formation des enseignants. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, il faut qu'une école, pour être considérée comme une école, je pense, digne de ce nom, ait une ossature pédagogique qui soit réelle. Nous, on pense que imposer la présence de conseils pédagogiques, qui est une manière d'organiser la régulation endogène, si je puis dire, et de répondre à la régulation exogène, mais un conseil pédagogique qui peut faire rentrer des gens qui ne sont pas que des gens de l'école, sont des choses importantes en leur donnant des missions. Alors moi, je connais mal, mais qui sont assez proches de ce qu'on demande à un conseil académique dans une université. Je pense que la mesure, et je trouve que le pays où c'est fait le mieux, c'est le Royaume-Uni, et ce que fait l'OFS sur la mesure de la satisfaction des étudiants, d'avoir un certain nombre de critères standardisés qui couvrent l'ensemble des écoles et qui permettent d'avoir une vision assez bonne sur est-ce que l'école se fout des étudiants ou pas, hein, qui n'est pas, et comme je dis que c'est pas un bien comme les autres, on ne peut pas mesurer la qualité de l'enseignement uniquement à la satisfaction des étudiants, de la même manière qu'un médecin peut être désagréable, mais être meilleur médecin qu'un médecin très sympa qui vous fait de l'homéopathie. Et donc le degré de satisfaction sera peut-être élevé avec un résultat sur votre santé qui sera faible. Donc de la même manière, la satisfaction ne suffit pas mais elle est satisfaisante. Voilà. Donc, ça, j'essaye de répondre à la question, c'est-à-dire si on régule bien et correctement, non seulement il me semble légitime qu'il y ait un financement par l'alternance, et ça serait quand même absurde d'avoir passé 25 ans à se demander comment on fait décoller l'alternance et qu'une fois décolle, on se demande comment on la fait atterrir. Si on veut cela, il faut effectivement qu'il y ait une régulation sur laquelle l'ensemble des acteurs soit d'accord et été associé.
Alors, vous soulevez une question, je vais donner la parole à José Milano et celles et ceux qui veulent parler, c'est l'opacité du système, pas forcément volontaire, mais la difficulté à disposer...
Dont personne n'a le monopole.
On est bien d'accord, mais on est bien d'accord, l'opacité du système, ça... je crois que Lynn Frangier pourrait nous en parler sur l'évaluation des formations, la difficulté à recueillir des données, les difficultés du ministère de l'enseignement supérieur en général et pas seulement sur le privé. José Milano, sur cette manne de l'apprentissage, vous avez la même approche.
Assez proche de Martin, mais restons sur le triptyque entrée dans le dispositif, sortie, c'est-à-dire le placement en entreprise, et le processus de production entre les deux, ce qui va être fait aussi un point avec la question de la qualité. Les entrants, en tout cas ce qui nous concerne, c'est beaucoup plus de diversité, ça a été dit, je le redis, 35% de redoublants qui viennent essentiellement de l'enseignement supérieur, public. Donc, quelqu'un au ministère a dit quelque chose, vous êtes la voiture balai. Bon, moi, ça ne me pose pas du tout de problème d'assumer pour partie que notre rôle, c'est de redonner une chance à des gamins qui n'en auraient pas eu. Et quand vous avez des cérémonies de diplôme et que vous voyez la diversité, c'est-à-dire vous avez la France black, beurre, et que vous avez... ils étaient 2500 en master chez nous au stade Jean-Bouin, et que vous avez des gamines qui disent qu'ils sont en apprentissage chez Canal+, Orange ou autre, vous savez que si c'est pas par des organismes comme les nôtres, et d'autres aussi dans la salle, ces gamines ou ces gamins, ils auraient jamais pu avoir ce pied à l'étrier dans leur vie personnelle et professionnelle. Donc la question de quel est le gamin qui rentre dans nos dispositifs doit être regardé avec attention. Et c'est là aussi où on exprime d'une autre façon, je pense, pour partie, notre complémentarité. La sortie, je suis d'accord, donc du système, je suis d'accord avec Martin, l'OFS britannique, il est très intéressant. L'initiative qui est en train d'être lancée, qui consiste à dire qu'on va prendre la DSN, c'est-à-dire les stats réellement du marché du travail, de prendre les diplômés, de croiser ça avec les diplômés d'une année, et de regarder les salaires, et de regarder public, privé, ce qu'on veut, pour voir effectivement quelles sont les filières les plus efficaces, productives, je ne sais pas quoi. Enfin, en tout cas, ça, cette donnée objective, nous en avons tous besoin. Parce que les enquêtes de placement sont biaisées, bidonnées. Enfin,
approximatives, on va dire.
Impossible à faire. Voilà, impossible à faire. C'est-à-dire, une enquête de placement pour un dossier d'un titre RNCP, donc France Compétences, je vais y revenir, c'est 50 000 euros. Donc quand vous voulez faire ça proprement, c'est juste 50 000, juste pour passer des coups de fil pour savoir ce que sont devenus les gamins. Bon. Voilà. Donc ça, il faut absolument que dans le processus de régulation de l'apprentissage et de régulation en général, on ait cette donnée objective, c'est bon pour tout le monde. Bon. Et ça va faire, je pense que ça va remettre un peu l'église au milieu du village sur ce qu'on entend sur les officines, pas les officines. Je reviens sur la question du processus de production et de l'apprentissage. D'abord, il y a une régulation. On confond le fait que les gens s'installent librement dans une activité. Effectivement, alors on dit, c'est facile, il n'y a qu'à aller à la préfecture. Non, ça c'est... OK, si vous voulez faire un diplôme, l'équivalent d'un diplôme d'établissement, tout le monde peut se mettre à faire de la formation. C'est très différent pour l'apprentissage. L'apprentissage, c'est plusieurs promotions, trois, avec des stats d'insertion professionnelle. Donc l'accès au financement public et non public, comme le rappelait Martin, c'est un chemin de croix. Pardon, il y a une présomption irréfragable de qualité dans le public qui n'existe pas dans le privé. Donc là, le différentiel, il est en faveur très clairement du public. Donc le privé doit faire la preuve que ces formations permettent l'insertion professionnelle. On est passé de 55 000 avant la réforme à 28 000 organismes de formation. Ça continue de baisser parce que la machine à réguler est en place. 60% en 2022 des demandes de renouvellement ou de création de formation chez France Compétences ont été rejetées. Donc quand on me dit qu'il n'y a pas de régulation et que l'apprentissage, c'est facile, c'est un guichet et on a de l'argent, c'est enfin, ce n'est juste pas vrai. Les processus, alors on peut en discuter, les processus de gestion de l'apprentissage, et vous le savez dans cette salle, sont extrêmement complexes, doivent être industriels. Donc ça veut dire beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement dans les outils, dans les compétences, dans les process. C'est pas simple de faire l'apprentissage, c'est pas... voilà. Je parle d'un point de vue juste opérationnel, plus l'accompagnement en entreprise, etc. Donc c'est très complexe, et donc effectivement il y a une barrière à l'entrée qui est une barrière industrielle, elle existe. Sur l'apprentissage, le système est dingue. Le niveau de prise en charge, et ça a été voulu, ça va être corrigé heureusement, et c'est très bien, on a avancé, consiste à demander à 213 branches, il y en avait 750 avant, bonne nouvelle, il n'y en a plus que 213, de se positionner sur 40 850 titres. C'est juste pas possible. Donc ça fait 820 000 hein, donc, cases. Donc évidemment, ça marche jamais. Donc il y a des anomalies. Les anomalies, c'est pas public-privé. C'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que le système consiste, en fait, à reproduire l'existant. Alors je vais citer un confrère. Bon, il m'en voudra pas. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Le niveau de prise en charge d'une formation à l'ESSEC. Bac plus 5. 18 000 euros. En fait, vous payez pas... 18 000 euros. Alors qu'on paye ou qu'on surpaye des formations pour des raisons d'aménagement du territoire, des métiers artistiques, enfin, il y a des tas de justifications de politique publique que je peux comprendre. Mais qu'on vienne dire que l'apprentissage, on se fait de l'argent dessus, alors que certains, le modèle des 820 000 lignes là, consiste à reproduire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune incitation économique, c'est-à-dire celui qui a des structures de coûts élevées, ou qui dit qu'il a des structures de coûts élevées, eh ben, les niveaux de prise en charge corroborent valide. Alors, il y a eu un écrêtage léger, c'est de 5 à 10% récemment, mais on entretient l'existant. Pourquoi ? Parce que on considère qu'une formation, je ne sais pas quoi, au marketing digital, si elle est faite à l'ESSEC, c'est légitime que la collectivité paye 18 000 euros, et quand elles sont faites dans nos formations, chez nous, bah, c'est 5, 6, 7 000. Donc, la question de la manne de l'apprentissage doit être regardée très sérieusement, parce que effectivement, c'est beaucoup plus complexe que le discours qui nous est parfois tenu. Je ne reviens pas sur quand même quelque chose qui nous habite, c'est que la qualité, c'est mieux quand c'est des profs permanents qui le tiennent. Et moi, je pense qu'il y a de la qualité avec des corps professoraux, parce qu'on en a dans nos écoles, mais il y a aussi de la qualité avec des grands professionnels, parce que ce qui compte, c'est est-ce que les gamins sont engagés dans leur formation, est-ce qu'ils vont trouver un emploi au bout, et je pense qu'on doit aussi regarder les choses de cette façon-là, c'est-à-dire que la qualité, je crois que les critères, je partage les critères de Martin, c'est qu'on doit aller vers des critères objectivés, et donc aller vers une régulation qui est une régulation des organismes de formation, et nous sommes prêts à le faire, et non pas une régulation qui est impossible à poursuivre, qui est une régulation titre par titre. C'est-à-dire il y a autant de prix, de niveaux de prise en charge, qu'il y a de formations qui, bon an mal an, se ressemblent. Parce que quelle différence entre un gamin qui va développer une compétence de marketing digital avec des niveaux de prise en charge qui vont du simple au triple ? Ça n'a aucun sens. Donc derrière cette image de l'apprentissage global, en réalité, nous sommes les héritiers d'une régulation qui est, pour des raisons d'arbitrage politique, en fait, est très complexe, et je pense qu'il est vraiment temps qu'on se mette autour de la table pour donner la vérité des prix. Nous, on remonte la comptabilité analytique, donc c'est complètement transparent. Je pense qu'il faut continuer d'inciter des organismes à faire des gains de productivité. Le système actuel ne favorise pas ceux qui essaient de faire des gains de productivité, notamment dans la gestion. Et ça ne veut pas dire la qualité des formations, ça veut bien dire la gestion industrielle de ces processus-là. Ça fait partie du prix. Parce que je pense que c'est une façon d'avoir un marché régulé avec des acteurs dynamiques. Et puis, c'est aussi une façon de faire des économies des financements publics, de l'argent public, qui est significatif. Dernier point, les mannes de l'apprentissage, il y a ce qu'on appelle le reste à charge. Un certain nombre d'entreprises comme les nôtres, nous allons chercher le reste à charge. Ça veut dire que des entreprises privées, non seulement continuent de payer, de la taxe, mais en plus continue de payer un supplément de prix pour avoir un alternant parce qu'il considère que parce qu'il vient de telle ou telle école, il est de qualité. Je veux dire, les entreprises ne le feraient pas s'ils n'avaient pas une notion très précise de ce qu'est la qualité du gamin et de sa formation. Donc il faut aussi en tenir compte, c'est-à-dire que c'est pas juste de l'argent public, c'est il y a un mécanisme qui est perfectible, mais il y a aussi des entreprises qui soutiennent l'apprentissage, y compris en versant plusieurs milliers d'euros chaque année pour avoir des stagiaires de qualité, et, enfin des apprentis, et dans 8 à 9 cas sur 10, les garder derrière. On s'est dit.
Merci. Alors, vous avez cité un exemple, je ne vais pas pointer l'ESSEC, hein, mais les business schools qui sont dans une compétition mondiale, comme les universités, mais sur leur créneau, les fameux palmarès du Financial Times, etc., elles sont engagées dans une course à l'armement. Et faut le dire clairement, la question financière, et vous évoquiez 18 000 euros, c'est une question d'un certain point de vue, je me trompe peut-être, il y a des journalistes dans la salle plus spécialisés que moi, une question de survie, quoi, dans leur modèle. Donc on a un édifice qui repose un peu sur du sable. Enfin, c'est un peu ce que j'observe. Je sais pas ce que Julien Jacquemin, il est à Neoma Business School, mais il est pas au comité de direction, donc il va pouvoir. il va pas répondre à cette question, mais quand même, c'est pas que les écoles du groupe Omnes Education ou de Galileo.
La très grande différence, c'est que ces écoles-là sont dans une compétition, comme vous l'avez signalé, qui est internationale. Le concurrent de l'ESSEC, ce ne sont pas que des écoles de commerce basées en France, mais c'est au niveau international. Et il y a aussi une régulation, une autorégulation qui est présente sur le marché, qui, je pense, a quand même une certaine expérience. Donc, je pense entre autres aux organes d'accréditation, qui peuvent être critiqués à certains égards, mais elle a le mérite d'exister. Ouais. Au niveau des établissements privés à but lucratif, c'est beaucoup moins le cas, et surtout ceux qui visent l'apprentissage. D'abord, j'aimerais revenir sur un point qui a été signalé par rapport au fait que, oui, il y a certains groupes qui ne sont pas nécessairement for profit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le statut de ces écoles est un peu différent en France par rapport au cas américain, qui est un peu un cas où la comparaison est quand même relativement intéressante. Aux États-Unis, les écoles donc, qui ont principalement émergé au milieu des années, fin des années 2000, milieu des années 2000, au moment de la crise et au moment du retour aux États-Unis, plein de militaires américains qui avaient des bourses pour aller étudier dans certaines écoles, ces établissements étaient soit cotés en bourse, avec l'intérêt quand on est coté en bourse, c'est qu'on est obligé d'être transparent par rapport à ses comptes et par rapport à qu'est-ce qu'on fait en termes de business. Donc ça, c'était intéressant, c'est un peu tirer la sonnette d'alarme. Quand on regardait les dépenses des écoles dans la communication, marketing et publicité et celles dans l'enseignement, on voyait qu'en fait, il y avait plus de fric qui était mis dans la première des deux cases, alors que au final, quand on a un établissement d'enseignement supérieur, on s'intéresse quand même un peu plus à investir normalement, en tout cas dans l'enseignement supérieur. Ici en France, c'est des institutions qui appartiennent à des equity funds, donc qui n'ont pas à court terme comme objectif le lucre, mais c'est plutôt à moyen et long terme, avec comme objectif principal à court terme de grossir, puis une fois après 5-10 ans, essayer de revendre la patate chaude, si possible encore un
très
peu
chaude, très chaude.
À quelqu'un d'autre qui voudra pérenniser l'affaire à plus long terme. Donc les incitants restent quand même très similaires, même si le contexte est relativement différent. Je pense qu'il y a le cas américain qui est très intéressant. Et c'est assez long cette matinée, donc je vais faire un petit peu d'exercice avec les personnes présentes dans la salle. Qui ici a déjà entendu parler de Claudia Goldin?
Ah, si vous avez lu la presse, vous la connaissez toutes.
Vous n'avez pas lu la presse, enfin, ça peut être toujours utile. C'est bien, c'est un peu le début de l'hiver. Donc ça peut être un trivia utile à savoir pour l'hiver. Donc Claudia Goldin, c'est prix Nobel d'économie 2023, professeure d'Harvard, qui a eu le prix Nobel, entre autres, pour ses travaux par rapport à la discrimination, et qui a également, depuis une dizaine d'années, travaillé sur les questions de l'enseignement privé à but lucratif, ce qui est quand même un sujet non négligeable. Et vu que je suis un peu l'enseignant-chercheur de service ici, ça peut être intéressant de regarder ce qui est ressorti de ces travaux. Donc elle a plusieurs papiers sur la question, et elle a aussi certaines de ses étudiantes qui se sont retrouvées dans le cabinet Obama et dans le cabinet Biden, un peu l'équivalent d'Alexis Kohler au niveau de ces cabinets-là. Donc ça peut être intéressant de voir.
Mais avec un doctorat.
Avec un doctorat, d'autant plus que les établissements qui ont conseillé les écoles aux États-Unis par rapport aux stratégies à mettre en place pour entrer dans le marché de l'enseignement supérieur américain sont un peu les mêmes que celles qui conseillent les écoles. Souvent, j'imagine, je ne sais pas si vous avez travaillé avec BCG, ou si vous avez travaillé avec McKinsey par rapport à vos stratégies de comment intégrer le marché français. Et donc, il y a certains...
McKinsey.
Ah, désolé, mes excuses. Et donc, ce qui est intéressant, il y a trois travaux qui sont intéressants qu'elle a fait. Un premier, et je pense que c'est quelque chose qui a déjà été signalé, ça, on ne peut pas leur enlever, c'est la capacité de ces établissements à attirer un public particulier, étudiants de première génération et avec une grosse diversité. Et ça, je pense qu'on ne peut pas leur enlever ça, et je pense que c'est une bonne chose. Deuxième chose qui ressort de ces recherches, et donc où est l'analyse des données, c'est que les données américaines, en tout cas à l'époque de cet article-là qui a été publié en 2013 ou 2014, mais qui circulait déjà au début des années 2010, c'est l'absence de données consolidées aux États-Unis pour essayer de faire une analyse concrète de l'émergence de ces acteurs. C'est un peu le cas français qu'on a actuellement, où on n'a pas de données consolidées. Il y a des très très bonnes données open data sur les universités. Sur le reste, bah, on a des données un peu plic-ploc à gauche, à droite, mais on n'a rien de... Et parfois, pas du tout de données. Hein. Ce qui est toujours assez marrant, quand vous lisez un article d'un journaliste sur l'enseignement privé à but lucratif, personne n'est capable de donner un chiffre. On va utiliser l'enseignement privé, on va supposer que c'est plus ou moins représentatif, mais en fait, on ne sait tout simplement pas. Donc, gros problème par rapport aux données disponibles, ça a été résolu depuis lors aux États-Unis. Et je pense, en France, là, il y a un gros problème, c'est qu'on a... une ministre qui n'est pas vraiment une ministre de l'enseignement supérieur, mais qui est plutôt une ministre des universités, et que son périmètre de travail, en fait, devrait être beaucoup plus large que celui à l'heure actuelle, et qu'on a cette compétence qui est de l'enseignement supérieur, qui est répartie sur différents ministères, et qui, avec, on a l'impression, en tout cas, qu'il n'y a pas personne, il n'y a pas grand monde pour coordonner tout ça. Aussi, ce qu'elle remarque dans ses études...
On va en parler cet après-midi avec la directrice générale.
Dans une de ses études, ce qu'on remarque, c'est que, toute chose égale par ailleurs, en fait, cette décision d'investir du temps et de l'argent pour ses étudiants, n'était peut-être pas la meilleure. En fait, ils auraient peut-être dû aller à ce qui existe aux États-Unis, l'alternative la plus crédible, qui est celle des community colleges, qui sont des formations courtes, sans aucune sélection, qui ne coûtent pas trop cher, entre 1 000 et 2 000 euros, 1 000 ou 2 000 dollars, ce qui, en termes de pouvoir d'achat, est assez comparable avec ce qu'on trouve au niveau de l'université. Et aussi, ce qu'elle remarque, en faisant du testing, donc c'est en envoyant des CV à des employeurs, et en jouant de manière aléatoire avec l'école où sont allés les étudiants, principalement sous un format équivalent à l'apprentissage, mais qu'en fait, le marché de l'emploi a tendance à préférer quelqu'un qui n'a pas été dans une école à but lucratif que dans une école à but non lucratif. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui s'accumulent, qui montrent que c'est peut-être intéressant, c'est ce qui a été fait aux États-Unis, de mettre en place des régulations par rapport à ce marché-là. D'autant plus, si vous avez lu la presse dernièrement, il y a la DGCCRF, il y a la médiatrice de l'éducation, qui a dit qu'il y avait des campagnes, des pratiques commerciales, des campagnes de communication qui semblent problématiques. Et je ne sais pas si ça concerne les établissements qui sont ici représentés, mais qui semblent quand même représenter une quantité non négligeable de secteurs. Moi, j'ai toujours dit, moi, je ne sais plus si c'était avec qui que je discutais de ça, avec quel journaliste. Je disais, mais moi, j'attends qu'il y ait un journaliste qui aille en caméra cachée, se fasse passer pour un étudiant, et puis qu'on l'attende au téléphone. Et puis, le discours, il y a un bouquin qui a été publié à la Press University de Chicago il y a quelques années d'un sociologue qui s'appelle Eaton, et où, en gros, il discute des pratiques marketing de ces écoles, et c'est incroyable, quoi. Ça donne limite envie d'aller dans ces écoles-là, quoi. Ils ont vraiment, ils jouent pas sur la qualité de la formation, mais vraiment sur l'adéquation. Et je me souviens, j'avais écrit un article dans ma thèse sur ça. J'utilisais cette quote-là en début de l'article pour essayer d'attiser le chaland. C'était un recruteur d'une de ces écoles qui disait, qui avait promis à un étudiant, mais qui en fait n'était pas un étudiant, qui était quelqu'un de l'équivalent de la DGCCRF, qui avait promis à la sortie de l'école une Lexus et des vacances tous les ans à Disneyland pour l'étudiant qui irait là-bas. Et je pense que c'est vraiment ce qui manque, c'est une régulation, et une régulation qui ne doit pas se faire, parce que je pense que c'est quelque chose qui a été discuté par rapport à des labels. Elle doit aussi se faire par rapport à des labels, mais je pense qu'il faut y aller de manière beaucoup plus urgente, à court terme, en se disant que le temps qu'on mette en place un système, et un système de régulation à long terme, ça peut prendre beaucoup d'années. Fermer les écoles à but lucratif, ce n'est pas non plus une option, parce que qu'est-ce que vous allez dire aux étudiants qui sont inscrits, qui sont en première, deuxième, troisième année? Et en plus, je pense qu'ils attirent un public qui est intéressant, qui ne va pas dans d'autres établissements. Et donc, je pense qu'il faut mettre en place certaines actions. Là, il y en a beaucoup qui peuvent être discutées. Moi, il y en a certaines que j'ai déjà discutées à différents lieux, qui ont pour objectif de déplacer les secteurs de dépenses des écoles plus vers l'enseignement et un peu moins vers la communication et un peu moins... Et je pense qu'il peut
pour résumer, on manque de transparence quand même sur ça. Je ne sais pas ce qu'en pense Martin Hirsch et José Milano sur leur propre groupe, mais... la transparence financière, la transparence des dépenses, la transparence de la composition sociale. Normalement, pour les universités, on le sait, même si les données du ministère sont compliquées à obtenir, parce qu'on n'est même pas capable d'avoir publiquement le nombre de boursiers par établissement. Non, mais vous le savez, mais l'opinion publique ne peut pas le savoir aujourd'hui.
Allez, enfin, ce que je disais, c'est que on est Calliope, forcément, donc il y a 17 indicateurs, et puis à chaque fois qu'on dépose ou on redépose un titre, on a toute une batterie d'indicateurs, et puis... Pardon ? Non, mais nous, on ne fonctionne pas avec l'allocation de titres. De toute façon, l'allocation de titres, c'est... Non, mais l'allocation de titres, c'est un autre sujet, on pourra y revenir, mais... Donc, chaque année, on remonte de une comptabilité analytique et qui est certifiée par les commissaires aux comptes. Donc, la question de la transparence, je ne sais pas comment on peut être plus transparent que ça. Donc, voilà.
Si je peux, puisque vous m'avez...
Laurent Bach aura des choses à dire, ouais. Je pense, là-dessus.
Non, mais Martin. Je pense qu'il y a des énormes progrès à faire en termes de qualité des données, de transparence des données, etc. Je vais donner... Juste, nous, il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur nos étudiants. On a passé plusieurs mois, et ça ne fait que maintenant que je sais dire, s'il y avait une question que je me posais. Quoi. Nous, on est arrivé en disant, puisqu'on fait de l'enseignement professionnalisant, parmi d'autres sans en avoir le monopole, est-ce qu'un jeune qui a un bac pro a plus de chances de réussir chez nous que quand il va à l'université ? Donc à l'université, selon les statistiques officielles qui sont très claires, sa chance d'avoir une licence en 4 ans est de 6,2%. Alors, chez nous, jusqu'à il y a 15 jours, je ne savais pas. Chez nous, c'est aux alentours de 50%. Par ailleurs, on n'en a pas tant que ça. Et donc, si je reprends ce qu'on disait tout à l'heure, j'aimerais que l'alternance, si elle continue à être financée publiquement, nous force à avoir un certain nombre de bacheliers pro parmi ceux qui bénéficient de l'alternance et que la régulation nous force à avoir des taux de diplomation puis d'insertion professionnelle de ces bacheliers pro suffisamment élevés pour effectivement justifier notre rôle, notre existence et le type de financement qu'on demande, soit à l'État, soit aux étudiants, soit à l'entreprise. Voilà, mais on a la possibilité d'avoir des données, mais il y a des progrès absolument considérables à faire. Alors, l'exemple que donnait José Milano est tout à fait vrai, quoi. Il est extrêmement facile, quand on va à l'École d'économie de Paris, ils ont accès à cela, à mélanger les données dites CIS, que vous connaissez par cœur, et les données DADS de l'employabilité, et on peut faire des choses absolument formidables. Je pense qu'il faut que le régulateur le fasse pour tous.
Stéphane Braconnier.
Juste un mot. Sur la, moi, je suis très favorable, je vous l'ai dit, à la complémentarité. Hein, et je pense qu'il y a une vraie complémentarité entre tous les acteurs de l'enseignement supérieur privé et public. Dès lors, naturellement, que tout ça s'insère dans un cadre qui est précis, notamment sur tout ce qui est pratique anticoncurrentielle, tromperie sur les prestations, etc., etc. Et l'université, il y a un certain nombre d'universités en France qui luttent contre ces pratiques-là. Et qui engage des actions, y compris contentieuses, lorsque cela s'avère nécessaire. Il y a deux éléments de complémentarité qui me paraissent importants. Ce qu'a dit Martin Hirsch à l'instant sur le taux de réussite d'un bachelier pro à l'université et dans un établissement du secteur privé lucratif. Mais c'est des chiffres en valeur absolue qui ne tiennent pas compte d'un élément important qui est du niveau de la formation. Le niveau de la formation est l'objectif qui est recherché par la formation. Pas comparer une licence généraliste dans une université à un bachelor dans un établissement privé.
Non, c'est pas le comparant. C'est comparer l'endroit où ils ont le plus de chances. Ah,
bien sûr, de réussir. Ça, c'est clair. Et là je suis d'accord. C'est la raison pour laquelle. C'est pour la raison pour laquelle je dis que là, il y a une vraie complémentarité parce qu'on n'offre pas la même prestation. Et ça, c'est important. En revanche, je suis un peu moins d'accord sur le terme complémentarité lorsqu'on parle de diversité. J'ai dit tout à l'heure, dans ces établissements-là, on a un public beaucoup plus divers. C'est le cas aussi quand même à l'université, hein, très largement.
C'est plus
le cas en plus à l'université. Donc, je crois qu'on ne peut pas avoir d'un côté... comme cela a été dit à tort, à mon avis, tout à l'heure, que
qu'il y aurait d'un côté les établissements privés du secteur lucratif qui seraient beaucoup plus... c'est pas Martin ce qu'il a dit, mais des secteurs qui seraient un secteur beaucoup plus ouvert sur la diversité avec un public beaucoup plus divers, et de l'autre côté les universités qui seraient très élitistes avec un public beaucoup plus homogène. C'est pas la réalité, hein, c'est pas la réalité. D'autant que derrière cela, et je terminerai juste par là, il y a un enjeu important aussi qui a une incidence à la fois sur la diversité, sur la réussite des étudiants, sur les filières que l'on veut ouvrir, c'est la péréquation territoriale. C'est-à-dire comment on assure, non plus, je ne parle pas de régulation cette fois, mais de péréquation, comment on assure la péréquation territoriale entre l'enseignement supérieur privé et l'enseignement supérieur public sur nos territoires. Et quels sont les acteurs qui doivent jouer cette péréquation, qui doivent agir sur cette péréquation? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les établissements tout seuls? Est-ce que c'est les collectivités territoriales locales, les régions en particulier, qui aujourd'hui sont compétentes pour cela? Les établissements aujourd'hui jouent un rôle important. Enfin, vous le savez, lorsque vous parliez de l'installation d'une école d'ingénieurs sur un territoire, qu'est-ce qui va bloquer très souvent? C'est l'université qui va dire non, concurrence d'une école privée. Donc on va actionner le levier des collectivités locales, de la commune, de la communauté d'agglomération, de la région, pour tout faire pour que ça ne se fasse pas, en définitive. Là, il y a un vrai sujet. Il y a des régions qui le font très bien. La région Nouvelle-Aquitaine, par exemple, qui a un conseil stratégique de l'enseignement supérieur régional qui va réguler, faire une péréquation en quelque sorte des établissements. Mais en revanche, là, il y a un véritable enjeu. Et ça, c'est un enjeu qui est un enjeu à la fois d'insertion professionnelle, mais aussi de diversité, je crois.
Gérard Pignot.
Oui, j'avais juste 3-4 petites choses. La remarque de Marc... Enfin, d'abord, je suis extrêmement heureux d'avoir des voisins qui sont... tellement vertueux, enfin, je suis absolument honteux. N'importe où deux.
Non, mais... On est dans un truc sérieux. Voilà. Oui. Je pense qu'on prétend pas être vertueux, plus que d'autres. Enfin, non, non, on prétend essayer de faire des efforts et par ailleurs demander à ce qu'il y ait des règles qui soient cohérentes avec les intérêts des étudiants.
Bon, alors là, on est absolument d'accord là-dessus. On est absolument d'accord là-dessus, et je trouve que le fait que la régulation vise à éliminer les tromperies vis-à-vis des étudiants, vis-à-vis des entreprises, est une très bonne définition de cette régulation. De quand même rappeler quelques... Et l'État. Deux choses, le fait de ne pas distribuer de dividendes, c'est très bien, c'est le cas de beaucoup de fonds qui interviennent. Après, je pense que les fonds espèrent faire une plus-value à la revente, mais tant mieux que cette plus-value ne soit pas continue. Mais ne dis pas, nous sommes totalement non lucratifs, parfaitement, il peut y avoir plus-value à la revente. Je n'ai pas dit ça. Voilà. Mais comme on est dans un monde où les notions financières ne sont pas toujours très partagées, donc ne dites pas ça. Même si c'est très bien de ne pas distribuer de dividendes, la plupart des fonds d'investissement dans les start-up ne reçoivent aucun dividende des start-up et ne font leur plus-value que sur une start-up sur 10. Il y en a 9 sur 10 qui se plantent et une sur 10 sur laquelle ils revendent très bien. Alors, il y a un sujet qui est quand même, et je suis content d'entendre dire que vous ne le faites pas, il y a la question notamment... alors c'est vrai que le RNCP, c'est un vrai parcours du combattant, c'est devenu un truc... Enfin, je veux dire, je pense qu'on est proche du prix Nobel de bureaucratie avec le RNCP à nouveau, hein, ce qui est quand même assez rassurant. Peut-être que vous ne le faites pas, mais il y a les phénomènes de location de titres, c'est-à-dire des gens qui utilisent des titres qui ont déjà été déposés et validés pour faire une formation différente. Alors, ce n'est peut-être pas le cas dans vos groupes, et à ce moment-là, tant mieux, mais ça existe. Oui, ça existe, et ça existe de façon assez importante. Et ça, c'est quand même un truc bizarre et totalement non contrôlé. Sur la diversité, il y avait eu une étude il y a une dizaine d'années à l'intérieur de la physique. Vous savez qu'il existe dans les écoles d'agronomie, les écoles d'agro, qui sont des écoles publiques, et les écoles d'agri, qui sont des écoles privées, qui sont aujourd'hui toutes à l'intérieur de la physique. Donc les 5 écoles d'agri privées, non lucratives, sont toutes à l'intérieur de la physique. Donc il y a Lille, Angers, Toulouse, Lyon et l'école du bois à Nantes, qui vient de rentrer à la physique. Et on avait fait une étude qui n'était pas sur le taux boursier, mais qui était sur les CSP des gens qui entraient dans ces écoles. Eh bien, croyez-le ou pas, les CSP dans les écoles d'agri privées payantes, enfin, plus chères que les écoles publiques, les écoles publiques ne sont pas gratuites, mais elles sont moins chères, étaient de moindre niveau. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on croit, le produit de formation, entre guillemets, le moins cher, était le moins ouvert socialement. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui une difficulté au ministère et dans l'agriculture française, c'est que beaucoup d'agriculteurs vont partir à la retraite et dans ces domaines-là, et que plus personne ou très peu de gens dans les écoles d'agro public s'approchent vraiment de l'agriculture, ils sont plutôt dans l'agroalimentaire, voire même dans d'autres domaines, parce que c'est une formation de très haut niveau. Et en fait, l'État français s'est dit aujourd'hui que s'il veut former des agriculteurs modernes, c'est-à-dire des gens qui ont fait des formations importantes, qui sont capables de gérer une agriculture moderne et gérer aujourd'hui une exploitation agricole, c'est vraiment très souvent un travail qui est d'un niveau ingénieur, d'abord par la complexité des réglementations, mais aussi parce que vous utilisez des produits, parce que vous êtes très réglementé, parce que vous utilisez des machines qui utilisent des GPS, etc. Et ben, ils comptent plus sur les écoles d'agri pour renouveler le tissu agricole français que sur les écoles d'agro. Donc, c'est pas pour dire que les écoles d'agro sont pas bonnes, elles sont d'excellente qualité. Mais voilà, donc méfions-nous des choses un peu parfois immédiates. Et là où je suis tout à fait d'accord, c'est que la notion de transparence est très faible. Vous savez, il y a une université américaine qui est très connue. Alors, il y a eu une étude aussi de Jean-Philippe Hameux sur la dette étudiante américaine. Vous savez que c'est un sujet régulièrement d'inquiétude. En fait, cette dette étudiante, qui est très importante, en fait, pour l'instant, elle n'est pas une bulle au sens où la valeur acquise par cette dette, donc l'actif qui est calculé en calculant l'espérance de gains supplémentaires sur la vie, reste supérieure à la valeur de la dette, donc vous n'êtes pas vraiment dans une période de bulle. Mais quand on analyse cette dette, elle est essentiellement aux États-Unis, l'étude a été faite, liée au fait des établissements lucratifs aux États-Unis, qui, comme vous le disiez, avaient des pratiques que vous disiez, vous aurez une Lexus, vous aurez, etc., des choses comme ça. Et parmi elles, pour la petite histoire, il y en a une très connue, qui est la Trump University, qui a utilisé l'image de Donald Trump pour attirer plein d'étudiants, hein, son émission de télévision, The Apprentice, etc. Donc, plein d'étudiants sont rentrés dans la Trump University, ont payé des frais de scolarité très élevés en se disant « si je vais là-dedans, ben, je serai comme lui, j'aurai plein de fric, accessoirement son fric à lui vient de son père ». Mais voilà. Et la Trump University a fait faillite à un moment donné, avec cabinet d'avocats, ils n'ont rien remboursé, et c'était une opération extrêmement intéressante et extrêmement mauvaise pour les étudiants. Merci. De la Trump University.
Alors, j'ai une question à poser à Stéphane Braconnier, parce qu'il doit absolument nous quitter à 12h15. On s'achemine peu à peu vers la fin de ce débat, mais il y aura un échange avec la salle. Est-ce que le problème de l'émergence du privé, c'est pas aussi lié à la nature de l'offre de formation des universités? Quand je regarde les écoles privées, la diversité, street design, dans l'art, le cours Florent, évidemment, des choses très diverses qu'on ne trouve pas à l'université, qu'on trouve dans les universités américaines, hein, par ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de nature de l'offre et un problème du fait de ne pas assumer sa sélectivité? Parce que ce qui est très curieux, c'est que beaucoup de familles, moi je le vois autour de moi, ils payent dans une école privée, ils ont l'impression vraiment qu'ils ont réussi le concours de l'X, quoi. Ouais. Et alors qu'à l'université, c'est beaucoup plus, de fait, beaucoup plus sélectif.
Non, mais
réfléchit.
Mais la logique, et c'est la logique de complémentarité. D'ailleurs, le secteur privé occupe des espaces qui ne sont pas occupés par l'enseignement supérieur public. Et finalement, c'est le caractère un peu vertueux aussi du système qui fait que les zones de concurrence dure, en quelque sorte, sont finalement assez peu nombreuses parmi les acteurs, on va dire, qui sont régulés, hein, puisqu'on parlait de secteurs régulés. Après, il y a ce que j'appelle les snipers qui viennent, là, du coup, faire une concurrence pas toujours loyale à l'enseignement supérieur privé. Mais dans le secteur régulé, je dirais que ces établissements-là viennent occuper un espace qui n'est pas occupé ou n'est pas totalement occupé. C'est Martin Hirsch qui faisait référence... Non, c'est vous qui faisiez référence tout à l'heure à vos discussions avec mon collègue Laurent Gamet de Créteil. C'est voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire dans quelle mesure... Alors après, tout dépend où on place la frontière. Hein, est-ce que ces échanges-là, ils sont... Il y a une adhésion suffisante de la communauté à ce type de collaboration? Ça, c'est une autre question. Mais... Et à l'évidence, il y a une capacité du secteur privé à occuper un espace qui n'est pas occupé par le secteur public. Ensuite, le secteur public, lui aussi, va occuper des espaces, et on revient au débat que nous avons au départ, sur la réponse au marché étudiant, ce que vous disiez à l'instant. On a l'impression, quand on va dans une école, que comme c'est sélectif, et que comme on paie très cher, on aura une meilleure formation que si on va à l'université, alors qu'on s'aperçoit finalement que la formation à l'université, elle reste sélective, voire très sélective, et puis occuper aussi, ou répondre en tout cas, à des nouveaux enjeux de formation, à des nouvelles demandes du marché, et ça c'est tout l'enjeu aussi de notre capacité, de notre agilité, nous, universités, avec les moyens qui sont les nôtres, avec les contraintes aussi qui sont les nôtres, on a parlé des contraintes administratives, des contraintes immobilières et autres, que l'on arrive à surmonter, mais qui sont néanmoins réelles. Et donc tout ça fait qu'on n'est pas toujours en mesure de répondre aussi vite qu'on le voudrait à des nouveaux besoins, et qu'à ce moment-là,
l'enseignement supérieur privé intervient, et il intervient dans des conditions qui sont parfaitement, qui peuvent être parfaitement satisfaisantes. Mais je dirais que ça, c'est finalement l'histoire de l'enseignement supérieur. Hein. Après tout, les business schools, elles ont occupé un espace que les universités n'occupaient pas.
Merci Stéphane Braconnier, je vous remercie vraiment d'avoir pris ce temps avec nous. Alors j'enchaîne toujours sur la régulation pour on va bientôt conclure ce débat qui est long, lourd, mais quand même assez passionnant, et on donnera la parole à la salle. Revenons sur la question des agréments, des accréditations, etc. Est-ce qu'il faut aujourd'hui un agrément avec des conditions très précises, un peu comme ce qui se passe sur la CEFDG, sur les masters pour les écoles de commerce? Est-ce qu'il faut maintenant changer l'approche RNCP, etc., et aller beaucoup plus dans le dur? Je sais que le ministère réfléchit à ça, on aura peut-être des éléments d'informations un peu plus précises cet après-midi avec Anne-Sophie Barthez. Du point de vue du HCERS aujourd'hui, Lynn Franger, votre opinion?
Alors, d'abord, je rappelle l'existant. Donc, je parlais tout à l'heure de la différence entre le reconnu et le non reconnu. Et je pense que le sujet principal qui va nous occuper tous aujourd'hui, ce sont les formations qui ne font l'objet d'une aucune reconnaissance et donc d'aucune évaluation, qui ne sont aujourd'hui regardées par personne. Dans le reconnu,
on a une idée du volume?
C'est très difficile de pouvoir cerner le nombre de formations qui relèvent de ce secteur privé non reconnu. En revanche, on a des idées plus claires aujourd'hui, ne serait-ce qu'en nombre d'étudiants concernés par la partie reconnue. Hein. Donc quand on prend les 3 millions globaux, nous avons à peu près 75% dans le public, 25% dans le privé, avec aussi une part des étudiants, des personnes inscrites uniquement dans des titres RNCP qui est en croissance. En revanche, justement, la grande question, c'est ce qui se passe dans le reste du paysage. Mais sur le reconnu lui-même, là aussi, on distingue entre deux types de reconnus. Et le fait d'utiliser le terme de reconnaissance pour ces deux catégories est un sujet, hein, peut être même problématique. C'est-à-dire qu'on a le reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ce sont les diplômes nationaux qui sont accrédités. Le terme accréditation en France n'est utilisé que pour ces diplômes-là. Je parle sous le contrôle aussi de Catherine Maligné. Nous avons les diplômes qui font l'objet d'une reconnaissance par l'enseignement supérieur, donc les diplômes visés et les grades et les licences et masters. Nous en avons dans les universités, nous en avons dans les écoles privées, dont les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs. Et puis, nous avons la reconnaissance par le ministère du Travail, donc les titres RNCP. Et la régulation ou l'évaluation, la reconnaissance de la qualité, parce que c'est sur ce mot que je voudrais insister, la qualité en tant que garantie pour les familles, garantie pour les étudiants et pour leur parcours. Aujourd'hui, la reconnaissance et donc l'évaluation préalable par l'enseignement supérieur suit des critères qui sont très similaires entre le public et le privé, pour ne pas dire identiques. Et encore une fois, quelle que soit l'agence d'évaluation, que ce soit le HCERS ou que ce soit les instances spécialisées comme la CTI ou la CEFDG. C'est-à-dire que, je peux rebondir sur les critères qu'a cité tout à l'heure Martin Hirsch, nous allons systématiquement regarder la qualité de l'encadrement, et pas uniquement dans le volet enseignant-chercheur, mais aussi les professionnels et la formation à la pédagogie. Nous allons regarder la qualité de la réussite et de l'accompagnement à la réussite, avec tout ce que cela suppose en termes d'encadrement, d'accompagnement, mais aussi de chances de réussite. Et nous allons regarder la qualité de l'employabilité et donc du devenir de manière générale, que ce soit en poursuite d'études ou d'employabilité. Bien sûr, ces critères-là, je passe vite sur ces éléments, vous connaissez les différents référentiels, vous êtes bien placés pour le savoir. Ces critères-là sont modulés, adaptés aux finalités des formations. Nous ne regardons pas la question de l'encadrement dans le public et le privé exactement de la même manière, puisque le statut d'enseignant-chercheur n'existe que dans le public, mais en tout cas, l'adossement à la recherche, à la pédagogie est regardé de manière différente. Et puis, bien sûr, la question de l'employabilité varie entre une licence et un master et un diplôme visé. Mais en tout cas, les critères sont tous là. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les formations du privé et du public, nous avons des points forts et des points faibles des deux côtés. C'est-à-dire que nous avons des diplômes aujourd'hui visés, par exemple, dans des écoles privées dont le suivi du devenir et de l'employabilité est lacunaire, ou parfois où l'insertion elle-même est lacunaire, de la même manière que s'il y a aujourd'hui une présomption de qualité dans l'enseignement public, elle est liée au fait qu'il est évalué et reconnu, mais il y a aujourd'hui des problèmes de pilotage des formations, de suivi de la qualité de ces formations en termes de recrutement, de réussite et de devenir, qui sont problématiques. La phrase la plus courante du HCRS, et je le regrette, c'est « les comités regrettent l'absence de données sûres, les comités regrettent l'absence d'analyse sûre bon, ». Donc, appel à la vague E qui est en train de préparer ces dossiers. Ça doit être des enjeux non pas bureaucratiques et administratifs, mais vraiment de travail sur la qualité, sur la reconnaissance, sur la lisibilité des formations. Ensuite, on a la question de la reconnaissance aujourd'hui par le ministère du Travail à travers les titres RNCP. C'est déjà une reconnaissance en soi par rapport à ce qui n'est pas reconnu du tout. En revanche, même si mes voisins de table disaient que le processus lui-même est exigeant et on n'enlève rien à la chose, en revanche, la reconnaissance n'est pas la même. Aujourd'hui, un titre RNCP, c'est un regard sur à la fois le processus d'élaboration de la formation, mais c'est principalement un regard sur l'employabilité. Les questions de qualité d'encadrement, de réussite, d'accompagnement dont je parlais tout à l'heure ne sont pas couverts. Et les titres RNCP ne sont pas évalués. En dehors de la reconnaissance par France Compétences, il n'y a pas d'évaluation, ni ex ante, ni a posteriori. Et aujourd'hui, quand un établissement privé va utiliser le terme « reconnu par l'État », il y a un risque de confusion important parce qu'un jeune, et j'en ai systématiquement en tant qu'individu et en tant que responsable sollicité par des familles qui nous disent mais ce diplôme est reconnu par l'État, un titre RNCP ne donne pas, d'abord ne convient pas, ne correspond pas au même type de formation, ne donne pas les mêmes droits et ne renseigne pas aussi de la même manière sur les contenus, la qualité. Donc le terme reconnaissance pour un titre RNCP, pour un diplôme visé, pour un grade et pour un diplôme national, est aujourd'hui problématique. Il faut pouvoir se le dire. C'est la raison pour laquelle le HCRS a proposé, donc, dans la note qu'on a élaborée dans le cadre de notre contribution à la concertation sur l'enseignement privé, deux éléments. La première, de dire aujourd'hui, si nous évaluons de manière systématique l'enseignement privé à but non lucratif, les ESPIG en tant qu'établissement, puisque c'est une exigence, et nous évaluons les diplômes reconnus, donc visés grade LEM. En revanche, pour le privé non lucratif, nous pouvons évaluer les établissements à leur demande. Ça peut être aussi, en concertation avec les conférences, des critères d'exigence pour faire partie d'une conférence. Mais en tout cas, c'est aussi un objet de concertation que nous avons eu avec les conférences, avec la physique, mais aussi avec d'autres, parce que c'est dans leur intérêt que la distinction de ce qu'ils font avec celui des autres le fasse. Mais aussi la manière dont on peut regarder ce privé aujourd'hui non reconnu, et de regarder aussi les titres RNCP. Nous ne pouvons pas tout faire et nous n'avons pas vocation à le faire. En revanche, un travail de régulation pour ce qu'on a appelé un Calliope Plus, c'est-à-dire de regarder pas simplement les processus qui mènent à l'employabilité et l'employabilité elle-même, mais ces éléments de qualité dont j'ai parlé tout à l'heure, pédagogique, de recrutement, d'encadrement, par des biais peut-être où on participe à la formation des évaluateurs, à leur accompagnement, à la définition de ces labels est un sujet que l'on doit avoir sur les titres RNCP et sur le non reconnu. Entre-temps, intervient maintenant, vous le savez, la discussion sur un label qui est proposé par le ministère. La concertation est en cours, donc je ne vais pas m'étendre dessus, simplement dire qu'il y a, quel que soit le périmètre qui est retenu, il y a l'enjeu de la lisibilité et de la visibilité, ajouter un label à l'existant, parce que déjà se retrouver entre les ESPIG, les visées, les grades et les diplômes nationaux, c'est déjà difficile à expliquer, même quand on est versé dans le sujet. Donc il y a plutôt un enjeu de lisibilité d'un côté, de simplification du paysage, mais aussi de la part des acteurs publics et privés, de la transparence. Et désormais, nous publions les rapports, ce que nous faisons sur les établissements privés. Voilà. On ne les évalue pas simplement de la même manière, mais nous les publions aussi. Les établissements privés, ça a toujours été pour les ESPIG, mais sur les formations privées, les diplômes visés et les grades, leurs rapports sont publiés comme ceux du public.
Merci Gérard Pignot. Et après, Julien Jacquemin, puis on va demander à la salle et on va ce qu'on avance.
Merci. Oui, parce que je voulais dire que j'étais très content de ce que vous disiez. Moi, je connais bien le label CTI qui est celui des écoles d'ingénieurs, et je voulais rappeler que l'HCERS, à proprement parler, ne délivre pas de label. L'HCERS évalue les établissements, de façon d'ailleurs assez... j'ai eu une évaluation il y a quelques années, et c'était vraiment, je dois le dire, très intéressant et très constructif, alors que la CTI accrédite. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Ah non. Je me permets. Ni le HCERS ni la CTI accréditent. Le HCERS évalue les formations et les établissements en vue d'une reconnaissance par l'État, par le ministère de l'Enseignement supérieur, diplôme visé, grade ou diplôme national. La CTI évalue en vue d'une reconnaissance par le ministère. C'est le ministère qui accrédite.
Je croyais que les écoles d'ingénieurs privées étaient accréditées directement par la CTI.
Non.
Et ça a changé, ça.
Oui. Et même pour la CFDG.
Mais en tout cas, pour avoir vécu les deux audits simultanément, ce n'est pas
France,
du tout la même chose.
On est en France.
C'est l'avis de langage. Et c'est la même chose pour la CFDG.
La CTI a un référentiel qualité. La CTI a un référentiel qualité et évalue votre conformité à leur référentiel qualité. Et la HCRS fait une évaluation beaucoup plus globale.
Vous connaissez le HCRS au niveau département d'évaluation des établissements qui le regarde dans son ensemble. Mais non, les formations, le département que je dirige moi, a exactement le même rôle et une méthode très similaire à la CTI. Nous évaluons les formations une par une avec un référentiel qualité. Et ce dont je parlais, c'était l'évaluation des formations individuelles qui s'ajoute à celui de l'établissement.
Tant mieux que ça ait un peu changé depuis quelques années.
Non, c'est comme ça depuis le début.
Voilà.
Ce qui prouve qu'on n'est pas sorti de l'auberge par rapport à l'ampleur du problème.
J'ai encore une bêtise.
C'est comme ça depuis l'ARS.
Je voulais parler de la question du nouveau label. Alors, je crois qu'on est dans le groupe de travail pour travailler sur ce label. Comme vous l'avez très bien dit, il y a déjà beaucoup de labels. C'est déjà compliqué pour les gens de se repérer dans les labels. Enfin, moi, je vais souvent sur des salons d'enseignement supérieur et c'est déjà compliqué pour les gens de se repérer sur ces labels, surtout que chacun, évidemment, met en avant ses caractéristiques. Et puis, comme on l'a bien vu dans toutes les interventions de tout le monde, c'est beaucoup plus compliqué qu'un label. Parce qu'un label, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Et si vous l'avez, c'est tout bien. Si vous l'avez pas, c'est tout mal. Or, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et nous, on a à la physique 6 points sur lesquels on voudrait insister, qui sont pas exhaustifs. Il y a certainement d'autres fédérations. D'abord, la première chose, c'est l'aspect de coordination d'orientation. On en a un peu parlé, mais voilà, il y a beaucoup à faire là-dessus encore. Instaurer. Alors, nous, on est assez favorable à ce que, notamment dans les salons d'enseignement supérieur, les organisateurs de salons est une responsabilité un peu plus forte sur ce qu'eux-mêmes communiquent. La presse, là, les organisateurs de salons l'ont moins. Alors, certains sont très sérieux, d'autres moins. Identifier la structure à saisir dans le cas où on n'est pas content. Dans le cas de la concurrence, on va dire, sur les produits habituels, il y a la DGCCRF qui pourrait se saisir de ça, mais c'est pas très clair. Voilà. Donc, il y a une difficulté à dire qui sont les gens qui peuvent intervenir. Renforcer le cadre de l'ouverture. Alors sur les titres, effectivement, il y a pas mal de choses, mais sur l'ouverture, il pourrait y avoir un peu plus de ce que d'ailleurs vous avez dit, de vérification du corps professoral permanent, de la compétence, des comités pédagogiques, parce qu'il y a quand même eu des officines dans lesquelles il n'y avait pas grand-chose. Rendre transparent l'appartenance à un établissement ou un groupe, ça c'est important aussi, caractère lucratif ou non lucratif. Bon, je pense que dans vos deux cas, ça l'est, mais il y a des endroits où c'est pas très clair. Et puis rendre obligatoire quelque chose qui est important, qui est la possibilité de poursuite d'études à partir des diplômes. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit vous-même, doctorat, licence, master, c'est régulé par l'État. Ingénieur, c'est régulé par la CTI, qui est d'ailleurs une des rares structures, je m'en profite pour le mentionner, dans lequel l'enseignement supérieur et le travail sont présents toutes les deux. Puisque la moitié de la CTI, c'est des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, et l'autre moitié sont des représentants des entreprises. Donc je pense que la CFDG est peut-être la même chose. Voilà, mais c'est une structure justement où les deux ministères, cohabitent, et depuis pas mal de temps, bientôt 90 ans. Voilà, donc, et les données d'insertion professionnelle, avec ce que vous disiez, c'est-à-dire le fait que c'est beaucoup de données qu'on lit, je suis désolé, enfin, y compris dans les enquêtes, ne sont pas crédibles, ne sont pas réelles, ne sont pas vérifiables, ne sont pas vérifiées, sont très difficiles à vérifier. Alors peut-être pas si difficiles que ça, mais qu'elles soient importantes. Sachant que dans les labels CTI et CEFDG qui existent, les données d'insertion professionnelle sont évidemment déjà très largement prises en compte, non seulement en termes de taux d'emploi, mais de nature des emplois, mais de qualitatif aussi. Et, voilà. Ceci dit, on va quand même travailler avec l'État sur cette question du label, parce que ça nécessite beaucoup d'échanges. Je suis content de voir que la HCRS a bien pris aussi conscience de la complexité du système. S'il y a bien un endroit où ils voient que le système est complexe, c'est la HCRS.
C'est clair. On va voir ça avec Anne-Sophie Barthez, de toute façon, cet après-midi. Mais est-ce qu'il n'y a pas une piste aussi sur les établissements d'enseignement supérieur privé à but lucratif, qui est un agrément à l'ouverture avec un audit financé par l'établissement lui-même? Un peu comme les certifications APAV, je ne sais pas si ça existe toujours pour des installations industrielles, mais avec des contraintes fortes et un modèle économique qui est assumé par l'école privée. Alors j'ai vu ça dans un des textes des intervenants, je ne sais plus lequel, hein, ce n'est pas mon idée, mais je l'ai lu. Je ne sais pas si c'est, Julien Jacquemin ou Laurent Basse.
C'est pas mon idée, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Donc aux États-Unis, bon, je vous emmène à nouveau outre-Atlantique. Aux États-Unis, donc il y a eu l'émergence, il y a eu jusqu'à 10 à 12% d'une cohorte qui allait dans ces établissements privés à but lucratif vers les années 2012. Et puis là, Obama a dit, non, ça va pas, il faut mettre en place une réglementation. Il y a eu tout d'abord mise en place d'un système statistique plus robuste. Là, je pense que la France y passera pas à côté. Deuxièmement, c'était la...
Il faut qu'elle y passe.
Elle passera pas à côté de la mise en place. Deuxièmement, c'est un conditionnement de l'accès au financement de l'apprentissage, donc qui est financé via les étudiants. Et là, je pense que ça peut avoir lieu via un système de label qui nécessiterait de l'avoir pour pouvoir accueillir des étudiants. Le problème avec cela, c'est que ça va prendre un certain temps afin de le mettre en place. Je dirais 4, 5, 6, 7, 8 ans. Et ça, c'est autant de cohortes d'étudiants qui sont laissés peut-être pour compte par rapport à une absence de régulation. Et aux États-Unis, ce label, la manière dont il a été mis en place, ce n'était pas par rapport à une évaluation complète, mais c'était par rapport à des indicateurs, par rapport à l'insertion sur le marché du travail et par rapport à la dette des étudiants, en sachant que l'objectif principal de ces établissements, ce n'est pas le apprendre à apprendre, c'est vraiment le apprendre à trouver un travail. Et donc, s'ils n'arrivent pas à permettre aux étudiants, 1 ou 2 ans après la sortie, à trouver du travail, à avoir un salaire décent qui leur permet, entre autres, de rembourser leurs dettes, il y a peut-être un petit souci. Et il y a une troisième règle qui est en train d'être discutée en ce moment aux États-Unis, je vais clôturer avec ça, qui est une dette qui a pour impact d'avoir une influence à très court terme sur le mode de fonctionnement de ces établissements et qui a pour objectif de les décourager à investir beaucoup d'argent en étant plus attractif pour attirer un maximum d'étudiants avec différents modes de campagne, principalement de communication et de marketing, et plutôt les encourager à investir ailleurs, c'est de limiter les bonus qui sont donnés au personnel de ces établissements, que ce soit dans les conseils d'administration, les conseils de direction, mais aussi dans les employés, des bonus qui sont liés par rapport à une augmentation de la cohorte des étudiants. C'est comme je vous le disais auparavant, et c'est un peu le credo d'Henri Huntsman, c'est que ces établissements ont vraiment intérêt à attirer les étudiants, puis une fois qu'ils sont attirés, c'est bon, ils ont payé, ils vont rester chez nous quelques années, puis ils ont déjà payé, ils pourront pas se retourner pour essayer de retrouver leur argent. Ça, c'est peut-être une possibilité, bon, c'est pas à moi à réfléchir, c'est plutôt aux décideurs publics. Et une autre possibilité, c'est ce qui existe dans différents pays, c'est de dire, jusqu'à une certaine date, au moment de votre inscription, vous pouvez demander que ce soit un remboursement complet ou partiel de vos frais d'inscription si vous voyez, après quelques semaines, un mois, deux mois, si vous voyez qu'il y a un problème d'adéquation, vous pouvez vous faire rembourser. En sachant que, à nouveau, on parle d'étudiants, pour la plupart, ils ont 17, 18, 19 ans au moment de leur prise de décision. Souvent, ils viennent d'un milieu défavorisé. C'est quelque chose qu'il faut quand même mettre en avant de manière non négligeable et n'ont pas toutes les connaissances par rapport au secteur. Et donc, je pense que ça doit être une piste de réflexion. Malheureusement, il n'y a pas de décideur public pour nous écouter, mais j'espère qu'à un moment, il y aura cette proposition.
Il y en a quand même. Merci. Alors, quelques questions, parce que là, on est bientôt à la fin. François Paquis voulait dire quelque chose. C'est le directeur général des services de l'Université Clermont-Auvergne.
Oui, c'était pour réagir à la remarque de Martin Hirsch sur les taux de réussite comparés des bacheliers professionnels en école privée et dans les universités. Alors, il y a quand même un biais considérable. Moi, j'ai le souvenir à l'époque où j'étais DGS de l'université Paris-Descartes. Le recteur de l'Académie de Paris nous affectait d'office 100 de bacheliers professionnels en première année de STAPS parce qu'il trouvait de place nulle part. Et j'avais regardé les stats sur 4 ans. Sur 4 ans, il y en avait un qui était passé en deuxième année. Mais pour une raison très simple, c'est que dans l'imaginaire, STAPS, c'est tapé dans un ballon. Mais en réalité, en première année de STAPS, c'était plutôt des matières intellectuelles qui étaient style sociaux, psycho, statistiques, etc., qui n'avaient aucun rapport avec la formation initiale des bacheliers pro concernés. Donc, dans un système où tous les bacheliers, y compris bacheliers pro, ont droit à entrer dans l'enseignement supérieur, le recteur joue son rôle, il nous les en a affectés 100 par an, bon, avec le résultat que je viens de décrire. Donc il y a un biais très fort quand même sur ces éléments.
Il y a surtout un biais, il y a un problème pour les bacheliers pro eux-mêmes. Quoi. Le sujet, c'est est-ce qu'on se donne les moyens, encore une fois, ensemble, de considérer que l'ensemble des bacheliers, dont les bacheliers pro, vous pourrez prendre les bacheliers techno aussi, parce qu'il y a aussi d'autres, puissent accéder, quelle est la proportion qui devrait accéder à un niveau Bac plus 2, un niveau Bac plus 3, un niveau Bac plus 5, etc. Et où est-ce que les chances de réussir sont les plus fortes et les modalités d'affectation?
Alors ça sera un autre séminaire, l'Artenir, parce que c'est un vrai problème.
C'était pas un jugement sur les uns sur les autres. C'était...
Quelques questions, mais très rapidement, là, maintenant, parce que nos intervenants vont mourir d'épuisement, et moi aussi.
Il y a déjà le fait que quand vous êtes CTI, CEFDG, vous avez obligation d'avoir une politique de site. Et vous avez obligation d'avoir des standards de recherche. Donc évidemment, c'est des choses qui nous poussent naturellement à ce type de démarche. Moi, ce que j'observe aussi, c'est que on commence à voir bouger les lignes avec de la co-construction de solutions. Nous, on travaille avec une de vos universités sur des licences conjointes. Déjà, on a deux initiatives de cette nature. Donc moi, je trouve que c'est intéressant. Ça a été un peu poussé par les textes. Et maintenant, je dirais que ça va plus loin. C'est-à-dire que dès lors que les liens sont effectifs, ça permet de mettre en place des formations plus vite, d'ailleurs. Une des façons de résoudre des sujets de part et d'autre, ça peut être ça. C'est-à-dire on travaille pas en sciences politiques avec une de vos universités, et c'est très intéressant. C'est-à-dire que on développe conjointement des programmes beaucoup plus vite avec des profs qui viennent de l'université, avec une licence universitaire. Voilà, c'est un bénéfice mutuel. Donc ça démarre de la recherche et maintenant ça s'étend aussi à la pédagogie. Avec, pour l'instant, on communique pas trop dessus, mais je pense que c'est une des voies de collaboration. On l'a beaucoup dit, qui est porteuse d'avenir.
Merci. Soisic Le Névé du Monde.
Merci. Une petite question qui concerne la transparence des indicateurs. Je crois qu'il y a un consensus là-dessus. Entre vous, est-ce que ça peut aller jusqu'à communiquer, dans le cas de vos deux groupes, Omnes et Galileo, le chiffre d'affaires qui est votre objectif visé finalement à moyen terme? Peut-être, est-ce que vous pouvez aussi aller jusque-là?
J'ai déjà dit tout à l'heure, il y a une très grande transparence financière. On peut toujours aller plus loin, ça je... Et il y a la question se pose, c'était l'autre volet, c'était la question du suivi de l'étudiant et des statistiques liées à l'étudiant. Je crois qu'il faut vraiment séparer les deux approches. Bon voilà. Après, sur la partie chiffre d'affaires qui dépend de l'apprentissage, puisque c'est un des sujets de débat, de toute façon, c'est totalement transparent, puisque on fait remonter des comptabilités, on a des volumétries d'étudiants qui sont rattachés à chacun des titres, et tout le monde sait faire une multiplication. Donc c'est pas c'est toute la partie qui est liée, si vous voulez, à un mode de financement ou une régulation, enfin un mode de financement public, est totalement totalement transparent. Donc
mais pour les objectifs à moyen terme, est-ce que c'est aussi ça serait possible de les communiquer de façon aussi transparente que le constat qui est celui que vous faites, effectivement, de...
Non, mais je veux dire, après, c'est une autre question. C'est-à-dire, la question, c'est est-ce qu'une entreprise va dire « mon plan stratégique à 5 ans, c'est ça, avec telle répartition, etc. » Là, on touche à un autre sujet qui est celui du secret des affaires. Je ne suis pas sûr que ça... que ça apporte beaucoup d'informations pertinentes, que ce soit pour l'étudiant ou sa famille. En tout cas, sur l'existant, c'est très
important. Merci. Justement, pour terminer, on va terminer avec Martine Debache. Moi, j'ai une question à lui poser, parce qu'elle est positionnée sur le marché. Est-ce que c'est un marché qui a mangé son pain blanc et qui va manger son pain noir avec la démographie? Comment vous, comme observatrice financière de ce secteur, on évoquait les objectifs des groupes privés, vous voyez le futur.
Je ne vais pas quitter ce secteur que j'adore, d'abord.
Donc, il y a de l'avenir.
Je ne sais pas si moi j'en aime, enfin, en tout cas, le secteur en a. Non, mais c'est ce que je disais.
Il a un potentiel de croissance.
Il y a un potentiel à la fois de croissance et d'aller sur des... Ce que je disais tout à l'heure, moi, je crois beaucoup aujourd'hui à l'extension des frontières. C'est-à-dire que la formation professionnelle, c'est un marché complètement éclaté. Bon, dans l'enseignement supérieur, il y a des grands groupes. Il y en a au moins 4 français qui sont les leaders européens. C'est quand même... Bon, on peut être content quand même. On est un secteur où la France est leader, en fait. Il y a un peu l'Espagne, mais sinon, les autres pays n'ont pas de groupes comme ça. Mais par contre, le marché de la formation professionnelle est un marché complètement éclaté. Et donc, et ces groupes commencent à s'intéresser à ce secteur. C'est vraiment le long life learning, c'est l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire probablement moins de 5 ans d'études et puis on arrête pour le restant de ses jours. On va faire des études plus courtes. D'ailleurs, on voit des gens qui ont des mentions très bien, qui vont dans des IUT, qui travaillent et qui après reviennent. Donc moi, je crois à mort à ça, en fait. Oui. Et donc, voilà, les choses évoluent, les choses se transforment. C'est-à-dire que...
Vous donnez une idée de séminaire pour l'association des DGS sur la formation continue, la formation tout au long de la vie.
C'est évident que c'est le secteur où tous ces groupes vont aller. Donc, non, moi, je ne suis pas inquiète.
D'accord, ben merci beaucoup. En tout cas, je remercie vraiment tous nos intervenants pour leur intervention. Vous n'avez pas pu tous parler autant que vous auriez voulu, j'imagine, mais enfin, c'est un débat inépuisable, donc il y aura l'occasion d'y revenir. Encore merci.